Bon, imagine toujours un môme le matin chez nous aux États-Unis. Hein, il s'en va jouer au baseball. Sa mère, le soir, vient le rechercher et lui amène
un otage.
Un sandwich, bordel de merde! Jamais une mère américaine va laisser son môme sans sandwich!
Dites-moi, quelle association de scélérats vous envoie? Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA?
Je vais vous transformer en bouillie radioactive, tellement liquide qu'on pourra même plus vous manger avec des baguettes.
Je n'oublierai jamais ce mois de juillet.
Alors, Guignou, vous êtes transgenre, vous étiez une fille et maintenant vous êtes un garçon. Êtes-vous heureux?
Oui, je suis très heureux.
Oui, mais enfin, tout de même, Jésus...
Oh, ta gueule.
Il était beau. Il était intelligent. Mais il était hermaphrodite. Hermaphrodite. Un suspense insoutenable pour lui aussi.
Ce sera sans moi, vous craignez un peu trop.
Désolé, mais vous craignez. Non, oubliez, vous craignez pas. Vous êtes craignos, désolé.
Magnos. Magnos. Vous vendez sur votre club, et alors?
Je passe, je peux pas.
Vous craignez pas.
Je savais que c'était impossible de trouver quelqu'un à cette époque de l'année.
Je veux pas dire, mais on nous a pas maltraités de craignos. Ça me donne envie de partir aussi.
Bienvenue dans Queenie Club, le podcast qui parle de tout et surtout de rien. Je suis Queen Terrasse et aujourd'hui on va parler de I Saw the TV Glow. J'ai vu la télé surbriller là, au Québec. Un film scénarisé et réalisé par Jane Schoenbrunn, sorti en 2024 avec comme actrices Justice Smith, Ian Foreman, Jack Evan, Elena Howard, Lindsay Jordan, Daniel Delaware et Fred Durst, incroyable. Et pour parler de ce chef-d'œuvre, je suis entouré de mes craignos préférés, Moche, salut Moche.
Hello.
Et Sybille, salut Sybille.
Mais attends, Fred Durst, c'est genre le daron?
C'est le daron, oui, alors, j'ai checké le Wikipédia pour voir les acteurs, et Fred Durst, oh bon, bah...
What the fuck, putain, ok, d'accord,
et
très bien.
Et du coup, le daron, c'est Fred
Bonjour.
Durst. Et... Fun fact, sachez que ça fait bientôt 3 semaines que j'ai My Way de Limp Bizkit en tête. À cause d'une malédiction de pixels qu'elle m'a envoyée pour me punir de je ne sais quoi. Donc, tout est lié, comme d'habitude.
C'est clair, c'est zinzin.
Et avant de passer aux avis, je vais demander à la plus belle du podcast de faire résumé. Oh, mais c'est moi. Alors, pour faire simple, on suit l'histoire d'un gamin qui s'appelle Owen, qui vit mal. Il va très très mal, et en fait, il va tomber à côté d'une meuf qui s'appelle Maddie, et qui est fan d'un show qui s'appelle Pink Opaque. Et en fait, c'est une sorte de Buffy contre les vampires mixé à Power Ranger, de fil en aiguille, où il va essayer de plus en plus d'apprendre sur le show et de pouvoir voir le show, parce qu'il vit dans une famille très stricte. Je veux dire, il a Fred Durst comme daron, donc forcément, ça doit être un peu bizarre l'ambiance, toi. Il va découvrir des choses sur le monde qui l'entoure et sur lui-même.
Mm-hmm.
Ah. Moche, t'as pensé quoi de I Saw the TV Glow?
Oh, le silence.
Ça marche. Le problème, en fait, c'est que je comprends ce que ça fait et je trouve que c'est très pertinent et que ça marche bien pour le faire. D'un point de vue neutre, c'est bien. D'un point de vue comment ça résonne avec moi, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont saucés sur le film parce que ça résonne très fort avec eux. Et au final, moi, la façon dont le film... Enfin, ce que dit le film résonne avec moi, d'une façon qui me laisse un goût amer. Donc, je vibe pas trop avec le film, mais je vois qu'il est bien, quoi.
Je vais enchaîner avec mon avis. Je trouve... Alors, mon expérience avec le film, c'est que... Malheureusement, nous sommes trois tradis de merde, donc... On va dire qu'en fait, ce film a beaucoup tourné dans les bouches des gens, en mode, oh mon dieu, il faut voir Episodes of TV Glow, c'est The Trans Movie, tout ça et tout. Donc je fais, ok, ça a l'air pas mal, j'ai vu quelques extraits, ça a l'air stylé un peu. Mais du coup, moi, je m'attendais à un vrai film d'horreur, pas un drame, pas un film long où on s'emmerde. J'ai rebondi sur le film, mais d'une force. Et je l'ai vu, je voulais voir une troisième fois, je l'ai vu que deux fois. Parce que vraiment, genre, la première fois que j'ai vu le film, genre, le film il fait 1h40, j'ai cru qu'il en faisait 3, quoi. Et Je rejoins Moche sur le fait que ça parle d'expériences qui sont sans doute liées à plusieurs personnes, dont je suppose la réalisatrice du film. Mais alors, moi, c'est vraiment, en fait... En fait, j'ai raisonné avec aucun personnage et j'ai un peu un problème avec... À force de vouloir traiter plein de thèmes, donc genre l'identité qu'on se fait à travers les shows qu'on regarde et à travers les gens qu'on aime et tout comme ça. Enfin, ça va dans tous les sens et du coup, je trouve qu'en fait... J'ai pas envie d'être une salope, mais en fait, j'ai un peu le truc de... Il y a un peu une complaisance... De la. C'est pas se complaire dans la marginalisation, ce serait trop méchant à dire ça. Mais c'est plus en mode. Ah, mais en fait, c'est bien de ne pas progresser, de rester sur soi. Ah, mais moi, en fait, il y a un show, c'est un peu le seul show que je regarde parce que c'est le meilleur show du monde et je veux pas bouger dessus et tout. Je me dis. Bah, c'est vraiment. Pour moi, c'est plus toxique qu'autre chose.
J'aurais pas compris ça comme ça, pour le coup. Je pense qu'il y a.
Bah, on en parlera du coup pour l'épisode, mais du coup, ouais. j'ai rebondi fort dessus et c'est, je trouve ça dommage parce que je trouve que le film est magnifique, la mise en scène est très très cool, ça fait peu avec beaucoup je trouve et c'est ce que j'aime bien parce que genre il y a des passages limite tokusatsu que je trouve ça assez drôle toi, mais il y a un truc de le twist de fin limite ça gâche le film pour moi, enfin pas gâcher c'est un fort truc mais je trouve que c'est pas une bonne chose pour moi. Donc j'étais un peu scrogneux en regardant le film, surtout la deuxième fois où je savais du coup le twist, voilà, donc je n'ai pas apprécié le film. Et Sybille, je suis désolée, parce que tu seras du coup la dernière à nous dire ton avis sur le film, parce que c'est toi qui nous l'as aussi proposé.
Mais justement, moi je suis très contente, parce que je voulais passer après vous, je voulais en parler après vous, parce que je me souviens que la première fois que j'ai vu le film, je l'ai aussi... Alors je l'avais pas totalement rejeté. En fait, ce qui se passe, c'est que... Bon, je passe un très bon moment. On est sur des atmosphères qui, moi, me parlent. C'est beaucoup shoegazy, des belles images, des plans... Bisexual Lightning, voilà, bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu vraiment ce plan où on voit Owen, une espèce flashback d'Owen qui sort avec une robe. Et d'un coup, dans mon cerveau, ça a fait tilt de qu'à ce moment-là où j'étais un peu en mode, attends, est-ce que ça pourrait être une métaphore de la transidentité? Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment repoussé cette théorie parce que j'étais là en mode, non, parce que j'aime pas trop ça, parce que du coup, ça voudrait un peu trop dire que sa transidentité lui appartient pas tant parce que c'est beaucoup poussé parce qu'il y a sa pote à côté qui lui dit vas-y ta. Et du coup je fais non j'aime pas trop ça. J'ai complètement écarté ça, je suis resté juste sur le côté très nostalgique rapport au show d'enfance et trucs comme ça. Et j'avais pas mal aimé. Et après j'ai eu beaucoup de personnes qui du coup on met ça en avant parce que c'est littéralement le sujet du film quand même. Et en fait j'ai beaucoup déchanté parce que je trouve le film et surtout sa fin avec cette lecture là, je trouvais la lecture du film vraiment horrible en fait. La fin, elle est ultra étouffante, elle est ultra pesante, et moi j'étais en mode, mais putain, si c'est ça ta métaphore de la transidentité, c'est quoi le message que tu essaies de faire passer en fait? Parce que j'avais cette sensation qu'on essayait de te dire, là Owen, il a passé le moment où il peut transitionner, et maintenant il va être comme ça tout le reste de sa vie, et moi j'étais là, mais c'est horrible! Mais c'est absolument horrible!
De vous entendre en parler, j'aime mieux le film qu'avant, c'est incroyable.
Mais en fait, justement, en fait,
juste
ce qui s'est passé,
c'est... Juste qu'on aimer, t'es vraiment une connasse, toi, hein.
Mais en fait,
non, mais c'est parce
non.
que... Vas-y, pardon, je te coupe pas pendant ton explication.
Oui, oui. Parce que j'ai pas fini, parce qu'il y a l'évolution. Du coup, moi, j'étais un peu là-dessus, j'étais un peu amer sur le film, puis après, en fait, j'ai entendu pas mal de personnes en reparler, justement, des personnes trans et tout, chez qui ça résonnait beaucoup. Et moi, j'étais un peu là en mode, mais en fait, je comprends pas, le film, il est horrible, moi, je trouve terrible son message de fin. Après, on m'a livré une lecture que moi, j'avais pas vu exactement comme ça, et que c'est un peu en mode, le film s'adresse plutôt aux personnes qui ont du mal à transitionner, et qui restent un peu bloquées là-dedans en se disant, ça peut aller, ça va passer, et puis qui, au final, juste sont en train de juste souffrir, sans vouloir passer le pas. Du coup, c'est un peu tout, c'est dirigé vers ces personnes pour leur dire, mais reste pas comme ça.
Il faudra que je reparle après toi.
Tu reparleras après moi. Moi, pas de souci. C'est vrai qu'en fait, j'ai beaucoup pensé à toi quand j'ai maté le film et je me suis vraiment demandé comment t'allais le recevoir. Mais
Je vais l'expliquer après. Oui.
Ouais, pas de souci. Et après l'avoir rematé une deuxième fois, j'ai beaucoup plus apprécié le film parce que je comprenais mieux ce qu'il voulait dire et j'adhérais mieux à ça. Et du coup, là, je l'ai revu pour la troisième fois pour le podcast. Et bon, voilà, j'ai vraiment adoré et j'aime beaucoup ce que le film fait, justement. Et je vais terminer là, ça ici, je vais laisser la parole à Moche.
J'aime bien, c'est que vos premières réactions par rapport au film, ça fait très... Is this a joke that I am too transitioned to understand? Et alors, bah, voilà, bon, je vais expliquer un petit peu mon cas parce que c'est important pour le contexte du truc, c'est pas pour raconter ma vie. Du coup, moi, ça fait plus de 10 ans que je sais que je suis trans et là, actuellement, j'ai toujours pas transitionné. Donc, en fait, quand t'as dit c'est ça ton message sur la transidentité, c'est ça ton film sur la transidentité, oui, parce qu'en fait, je me rends compte que des œuvres qui parlent de transidentité pour te montrer la transidentité sous le prisme des gens qui transitionnent, c'est bien. Mais du coup, c'est vrai qu'en termes de film qui te montre juste, et vraiment pour le coup, le film le fait très bien, ce que c'est que d'avoir l'impression de mourir à petit feu sans vivre parce que tu ne vis pas tel que tu es, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui le font aussi bien que ce film. Maintenant, il y a une autre chose que tu as formulée d'une façon qui est, moi, la raison pour laquelle ça me met un truc amer, c'est tu dis ça en mode... mais vas-y, transitionne, il faut que tu passes le pas. Bah ouais, sauf que ça te met sur toi la volonté de transitionner ou non, alors que c'est pas comme si ta volonté pure faisait que t'allais pouvoir transitionner ou pas, en fait. Bah non, en fait, même si tu veux, c'est pas pour ça que tu vas pouvoir. Et du coup, ce film est super, c'est qu'il te montre quelqu'un, bah tu vois, si tu transitionnes pas, tu vas avoir l'impression de suffoquer pour le reste de tes jours, sans jamais se dire qu'il y a des gens pour qui ça va être le cas, en fait. Tu vois, c'est...
Alors... En fait, je sens un peu différent, mais je crois que c'est aussi parce qu'on a une vision de la transition qui est différente. Moi, tu vois, à mes yeux, t'as déjà transitionné parce que entre nous là, on utilise le féminin avec toi et pour nous, enfin, t'es. Alors après, c'est que toi, t'es une personne non binaire, mais du coup, qui préfère visiblement qu'on utilise elle. Mais du coup, pour moi, juste avoir une transition comme ça où on change les genres quand on s'adresse à toi, pour moi, et ça fait partie ça englobe la transition, tu vois. Genre moi, quand j'ai commencé en me genrant au féminin et en laissant aussi des potes me genrer au féminin. Pour moi, j'avais déjà commencé à transitionner, en fait. C'est pas parce que j'ai commencé à prendre de l'œstrogène que là, j'avais vraiment transitionné. Non, pour moi, ça a commencé déjà avant. Parce qu'en effet, c'est vrai que c'est pas uniquement dû à notre volonté propre de transitionner, parce que il y a aussi tout le milieu médical qui, on sait à quel point c'est quand même assez compliqué de se lancer là-dedans. Ça va beaucoup dépendre des personnes qu'on a en face de nous. Donc c'est difficile, mais la volonté de s'accepter tel qu'on est, tel qu'on se ressent, et de le dire aussi aux autres. Bon, en effet, il y a aussi le fait de la peur de savoir comment les autres vont réagir, mais il y a quand même une part de toi qui peut te dire, voilà, je m'assume en tant que tel. Et c'est pas du tout ce que fait le personnage de
oui.
Owen.
Alors, j'aimerais répondre avant, parce que j'avais pas fini. Désolé, Queen, mais...
Excuse-moi.
Je voudrais effectivement juste préciser que je suis pas... je sais plus le terme, mais trans médicalisante qui veut absolument qu'il y ait une transition hormonale ou opération ou quoi que ce soit pour transitionner. C'est juste que quand je dis que j'ai pas transitionné, c'est que là, concrètement, ma vie, je la vis pas, tu vois.
Oui.
Ah, c'est pas une question d'hormones, mais dans mon cas spécifiquement, ça déverrouillerait un paquet de trucs qui, pour le coup, ne sont pas encore là parce que j'ai pas de trucs. Mais du coup... c'est la façon dont tu structures et mets en place ta vie. Mais c'est pas parce que des gens me genrent correctement sur Internet que ma vie n'est pas full boy modding en dehors. C'est pas... je te considère déjà comme transitionné de ton point de vue, sans doute. Du mien, absolument pas. Du mien, je suis comme le personnage bloqué dans une vie qu'il vit par dépit, en fait. Donc, enfin, c'est pas... Bref.
Envoyez de l'amour à Moche!
Vous vous souvenez quand on parlait de Blade 1? C'était pas mieux quand on parlait de Blade 1, là?
Je vais juste parler vite fait de mon rapport à ça, parce que le truc, c'est que pour moi, il n'y a jamais un truc aussi personnel que la transition, en fait.
Oui.
Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Sibyl, et je suis pas non plus d'accord avec ce que dit Moche. Enfin, je suis plus proche de Moche que de Sibyl, parce que le truc de... c'est un peu le même problème que les alliés qui disent « Non, mais tu sais, tu peux être une femme avec de la barbe. » Je me dis « Non, je peux pas, en fait. » Personnellement, je ne peux pas, en fait. Ça me tuerait, en fait, de sortir en full femme avec des poils. Enfin, je préfère mourir. Et pourtant, c'est drôle, mais quand je boy mode, je n'ai pas de dysphorie, toi. Et je sais que quand je suis au magasin, me genre en féminin et tout, parce que j'ai un uniforme et tout, mais le coup de... c'est pas grave d'avoir des poils, machin et tout. En fait, pour moi, j'ai vraiment transitionné le jour où j'ai pris des hormones dans ma cuisse, quoi. Et je ne suis pas belge, alors je sais pas pourquoi j'ai dit cuisse au lieu de cuisse, mais...
Redis voir cuisse une ou deux fois que je puisse couper correctement.
Cuisse. Mais c'est comme l'huître. Je sais pas pourquoi je dis l'huître comme une huître. Alors au lieu de dire huit, mais, mais je sais pas. En fait, je transitionne pour devenir belge. Et vraiment, quand j'ai commencé à vraiment avoir les effets de la transition pour, qui sont arrivés sur moi, que je pouvais enfin porter des vêtements femmes et me représenter comme telle, c'est là où je me suis dit, ça y est, je suis ce que je voulais être, toi. Mm-hmm. Mais c'est tellement personnel. Je sais que quand je t'ai vu, Sybille, toi, t'étais full out et tout, et t'étais juste en mode trop cool, et je me suis dit, bah, je suis trop contente pour toi. Et c'est un truc qu'en fait, que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, bah, chacun voit midi à sa porte, et surtout par transition. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a toujours le... En fait, le problème, c'est qu'on a... on accuse vite fait les gens de transmédicalisme.
Oui, c'est ça, le terme.
Tout ce que je peux comprendre, mais jamais je dirais à une meuf trans, t'es pas trans parce que tu peux pas d'hormones, toi.
Absolument.
C'est juste ton rapport à ton corps. Juste, moi, souvent, je dis, est-ce que tu veux que je te conseille pour comment te procurer des hormones ou quoi, toi? Genre, mm-hmm. Parce que je sais que moi, gamine, mais je sais que ça fait depuis 7-8 ans que je voulais être une femme, toi. Voilà, quoi. Et je me suis réprimé aussi tout le long. J'ai fait à peu près le même truc que le gamin. J'ai même littéralement fait le même truc que dans Gundam en mode Camille. Non, mais c'est un nom de garçon, Camille, arrêtez. je vais déclencher une guerre interstellaire à cause de ça.
Alors que moi, c'est terrible. C'est que j'ai quasiment pas eu ce truc-là de rejet par rapport à moi-même. C'est-à-dire que moi, vraiment, tout de suite. Ah, ok. Bon, bah, ok. C'est noté. Et tout le reste a été de la merde, en fait. C'est-à-dire que moi, comparé au personnage du film, je n'ai pas eu le même comportement et je suis dans la même situation. Et ça... l'amertume du truc, tu vois. Enfin, putain.
Aïe, aïe, aïe. Ah, putain.
Ouais, mais bon.
Et ça, c'est vrai que justement, la transition, c'est quelque chose de très personnel et de très intime. Et je crois qu'il est non-binaire, donc réalisatrice parle de sa vision de comment Yael a vécu ou Yael le voit la transition. Ça fait quelque chose de personnel et d'assez pertinent sur la manière de représenter en tout cas la dysphorie et le fait de ressentir cette espèce de vide sans forcément savoir exactement pourquoi il y a ça là, quoi. Enfin, je veux dire, des
moments, mettre cette espèce de d'anesthésie de ta vie, en fait, où tu fais ta vie, en fait, mais tu la vis pas. C'est très difficile de l'expliquer, mais le film, de la façon dont c'est fait, je trouve vraiment un bon exemple d'avoir l'impression de perdre sa vie, enfin de passer à côté de sa vie. C'est très...
Oui.
Ouais. Ça marche bien.
Là-dessus, c'est vrai que c'est très bien fait. Mais en fait, surtout, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que cette espèce de cliché qu'on voit des fois sur le fait d'être force femme, tu vois, et qui est un peu ce désir chez les personnes qui n'ont pas l'énergie de passer le pas, de se dire, il y a une personne qui va arriver, qui va me dire, non, mais t'es ça, vas-y, hop, tu viens avec moi, tu vas prendre ça, ta, 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 ta. Et en fait, du coup, qui va un peu t'alléger de ce point de dire, voilà, j'ai pas à prendre la décision. On va me force faire.
Oui, c'est le fameux. Est-ce que tu appuies sur ce bouton pour devenir une femme?
Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, le truc, c'est pas des choses qui arrivent. Et moi, j'avoue que c'est un truc, une idée que j'aime pas spécialement parce que c'est, on a dit que la transition, c'est quelque chose de très intime. Et du coup, c'est normal que ça aille à ton rythme. Bon, après, il y a des choses qui vont nous bloquer, qui sont un peu en dehors de, un peu en dehors de nous.
Et ça, pour le coup, des fois, le rythme est interrompu.
Exactement. Et là, du coup, c'est cool de pouvoir aller. Moi, je suis en train de rigoler parce que tu te sens concerné, mais c'est cool de pouvoir justement aller reach out vers des personnes pour demander de l'aide. Mais du coup, dans ce cas, justement, c'est à toi de demander de l'aide plutôt que des personnes qui s'introduisent et qui te disent comment faire les choses, parce que c'est une expérience tellement intime. Et ça doit quand même venir de toi, en fait, à la base. Et c'est toi qui dois faire ton parcours. Et je pense que c'est assez important quand même d'avoir ça en tête, tu vois, de se dire que, bah, en effet, on va quand même faire avec ce qu'on peut, avec ce qui nous entoure, mais faut aussi qu'il y en ait quand même qui viennent principalement de nous là-dedans.
Bah, c'est le premier pas, quoi, qu'il arrive.
Oui.
Oui.
Déjà, réaliser, c'est déjà un premier pas sympa, parce que moi, je t'avoue que...
Oui.
Bah, genre, là, de nos jours, on est un peu... Enfin, je sais pas en dire mieux servi, mais déjà, on a des persos trans, toi. Moi, je me rappelle, le seul perso trans que j'ai connu de ma vie, j'en avais deux, c'était Monsieur Garrison dans South Park et l'Alien, là, dans American Dad, là, toi. Donc bon,
ah ouais.
Je t'avoue que c'est léger, et c'est des persos comiques qu'on se fout de sa gueule, toi. Là, de nos jours, on a des vrais shows qui parlent de chat, qui le montrent. Il y a des actrices qui deviennent connues. Enfin, voilà, quoi. Bon, on a aussi, bizarrement... Vu qu'on est plus visibles, les femmes trans, on est aussi le sujet de lois qui veulent nous faire disparaître, mais...
c'est un oui, truc bah aussi oui.
Que... Si tu suis un peu le speedrun ou tout ça, t'as quand même des vrais exemples de vraies personnes trans.
Oui, mais pas en 2000. En 2000. Genre, tu crois que quand j'avais 6-7 ans, je savais ce que c'était speedrun? Non, toi, genre, je te parle vraiment de shows, pas d'Internet, toi.
Oui, non, mais d'accord, mais enfin, je suis certes plus vieille que toi, mais du coup, en étant plus vieille que toi, il y a eu quand même toute une partie de ma late adolescence où je connaissais connaître dans le sens voir, hein, pas connaître dans le sens connaître la personne, mais je connaissais Dame Dame, je connaissais Sinaël.
Moi, je savais même pas qu'elle était trans, Dame Dame, toi. Tu l'as pris très très tard que Dan Dam était trans pour moi, j'étais une meuf cis, toi.
Elle en parle pas du tout et je trouve que bon, c'est bien, elle a pas spécialement envie d'en parler, mais c'est vrai que
chacun,
oui, c'est pas
son
truc.
Chacun son choix comme pour l'autre.
Oui, totalement le droit de pas parler de sa transphilité. Hein.
Mais du coup, voilà, moi j'avais des exemples comme ça, où le moment où je me suis rendu compte que j'étais trans, j'avais des exemples où je me suis dit, ah oui, bah comme cette personne en fait, bah ok.
Ouais. Ça, je sais que c'est des exemples que moi j'avais pas spécialement eu non plus quand j'ai grandi, et justement en fait, moi j'ai un peu grandi dans l'ignorance de la transidentité, et je sais que j'ai surtout connu lorsque j'étais un peu plus sur Twitter et que je regardais un peu plus d'autres personnes dans les milieux de gauche, où là j'étais un peu en mode je voyais des trucs, je disais ah, bah, c'est absolument ok, y a pas de soucis. Et après c'est quand j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, mon genre, et ce qui faisait que je me sentais la plus à l'aise, que là je me suis dit ah attends, il y a peut-être un truc. Mais c'est vrai que je suis le genre de personne, je pense, qui avait besoin de vraiment prendre son temps, genre je me suis juste genré au féminin pendant 2 ans. Quand j'allais au taf, j'étais toujours avec mon dead name, j'étais toujours au masculin. Et quand j'étais côté familial et plus ami sur internet, là c'était plus féminin. Et je comparais un peu les deux, j'avais besoin d'un peu voir la comparaison pour voir comment moi je réagissais et est-ce que il y avait en effet quelque chose. Et ça a duré 2 ans comme ça jusqu'à ce que bah il y a un moment je réalise bah oui en fait ouais c'est... Il y a vraiment ça. Et là après j'ai commencé à essayer d'acheter des vêtements un peu plus féminins. Puis après j'ai commencé à me renseigner pour essayer de commencer les hormones, enfin. Et après, il y a eu tout le déroulé derrière, mais je suis allé à mon rythme. Et voilà.
Du coup, moi, je t'avoue que... on va finir sur cet truc et on va commencer le film, parce que ça fait déjà presque une demi-heure qu'on parle. Le truc, c'est que moi, c'était très tard. En fait, il a fallu que je rencontre ma meilleure amie, Sharp, qui... je réalisais que je fais... Ah ouais, en fait, on peut faire ça, en fait. On peut juste transitionner, en fait. Et je sais que... putain, elle a dû ronger son frein, je pense... en pensant à moi, avant, parce que vraiment, genre, je l'ai rencontré, quoi. On était en 2019 et j'ai vraiment commencé à transitionner en 2022, je crois, environ. Où j'ai commencé à prendre des hormones en 2023, mais j'ai commencé à me genre en féminin en 2022. Et le truc, c'est que bah, c'est juste voir que des gens comme ça existent et que dans la vie de tous les jours, ça, c'est ce qui m'a permis de passer le pas, en fait. Genre, juste savoir qu'on pouvait le faire, quoi.
Ouais. Mais ça, c'est vrai. Et toi, je pense qu'en fait, ça m'a fait énormément de bien de côtoyer de plus en plus de personnes trans, justement, parce que il y avait toujours des fois des dysphories vis-à-vis de mon physique sur certains trucs ou quoi. Et puis après, en côtoyant de plus en plus d'autres personnes, j'étais un peu là en mode, mais en fait, Osef, quoi. Et donc, du coup, moi, je t'avoue que je traîne avec de la barbe, mais je suis tranquille.
Il y a une femme que j'ai connue, elle m'avait dit, une femme trans que j'ai connue un jour, et qui m'a dit une phrase qui m'a changé à peu près la vie quand on était ensemble au lit. C'était qu'il faut que t'apprennes à cloque les femmes cis. Et en fait, voir que bah, même les femmes cis, elles ont des traits masculins, genre un nez un peu plus gros, une mâchoire un peu plus carrée, tout comme ça et tout. Tu te dis, mais en fait, genre, être une femme, c'est pas forcément genre les affiches de métro, de mannequin, toi. C'est juste random. Et même si j'ai toujours un peu un problème avec... En fait, le truc, c'est qu'il y a un peu le côté de... Quand tu check les commis trans, c'est qu'en fait, les commis trans, comme je disais, qu'il y avait, genre, chaque meuf trans est différente, c'est que du coup, les commis trans sont aussi différentes, et j'ai pas envie de dire qu'elles me tapent toutes sur les nerfs, mais il y a un peu un côté... found family, start to get as annoying as a real one. Et je t'avoue que je préfère largement côtoyer des endroits pas trans, mais genre Warhammer, les comics et machin et tout, plus que les trucs trans, genre air trans comme ça, parce que souvent, soit c'est genre comme sur 4chan, où c'est de la self-dépréciation, limite à se pousser au suicide, soit c'est des trucs un peu genre des mèmes de merde, en mode « Oui, je suis une petite fille, machin, un truc sur Reddit », ou des meufs qui sont juste méchantes et qui se détestent sur Twitter. Moi, je suis un peu en mode... Enfin, je comprends totalement Dana, mais être... Moi, je veux pas être la femme trans, je veux être une meuf qui stream. Moi, je veux juste être la présidente du monde, quoi. Tu vois, genre, voilà, ça, vas-y, tranquille, quoi.
Mais tu vois, c'est très drôle, parce que c'est vrai que je vois les milieux où je suis, donc c'est un milieu plutôt lesbien, donc il y a aussi des personnes trans dedans. Mais c'est un milieu, du coup, où je vois justement un peu ce côté-là. Et en fait, moi, je me suis mis une règle, c'est que, ok, une personne va mal, je vais essayer un peu de l'écouter, de lui donner des conseils, faire un truc. Si je vois que, genre, 2 semaines, elle en est au même point, et elle me demande les mêmes trucs, et que je vois même un peu la même charge, et qu'en fait, au final, elle se repose exclusivement sur moi pour faire les choses, je suis un peu là en mode, bon, en fait, je suis désolé pour toi, je comprends en effet que c'est compliqué, mais... Je peux pas sacrifier ma santé mentale dans tes problèmes. Donc ouais, voilà, d'être une éponge. Moi, je me suis un peu forcé à mettre des limites avec les personnes avec qui je suis autour de moi. Et je sais qu'il y en a beaucoup autour de moi qui peuvent vraiment être deep de ouf. Et moi, il y a un moment où je suis en mode, non. Juste dans une certaine limite. Parce que, je peux pas être la seule personne qui peut t'aider. C'est vraiment ça, le
truc. Vous savez ce qu'il y a comme limite? Le fait que Owen ne peut pas regarder la télé après 10 ans du soir. En effet, le film s'ouvre sur... une pub pour Pinkopac, une sorte de Buffy du coup, slash Power Ranger. Là pour l'instant c'est surtout du Buffy, mais c'est après où ils vont... Ouais. Je sais pas, ce qu'en fait c'est que j'ai jamais vu Buffy, donc c'est pour ça que je regardais
Sibyl. Moi, je connais très bien Buffy, alors je peux t'assurer que c'est vrai qu'il y a...
Parce que je sais pas s'il y avait vraiment genre des méchants en costume qui font « Ah, je suis méchant !»
Oh, non, mais franchement, les costumes de The Pink Opaque sont quand même pas mal similaires aux costumes qu'il y avait dans... Genre Marco Polo, ça, c'était des costumes que tu pouvais trouver dans Buffy. L'homme glace, pas tellement.
Ah ouais, ok, pour moi, c'était très Power Ranger Core.
Alors, c'est vrai que dans leur petite danse, ouais, c'est un côté très Power Ranger Core, pour le coup, ouais, ça, je suis d'accord. C'est vrai que dans l'ambiance globale, c'est un peu horreur et un peu taunting. Enfin, genre, il y a un moment, t'as littéralement Tara qui va voir un monstre en mode « Hey, il y a machin truc qui a appelé, sont pas contents de ton make-up. » Ça, c'est vraiment des lignes que tu peux trouver dans les séries comme Buffy. Enfin, tu peux trouver ça dans Buffy. Et là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses qui rappelaient vraiment Buffy dans l'atmosphère.
Oui, tout le film, on aura des sauts dans le temps entre Owen jeune et Owen vieux. Et il va nous parler en fait de sa rencontre avec une fille qui est aussi fan de Pink Opaque, qui s'appelle Maddie. Et elle lit en fait le guide des épisodes de Owen. Et parce que lui, en fait, il a vraiment pas le droit parce que bah, là, quoi, il a dû avoir 10 ans et elle a 13.
Non, je crois qu'au début, là, c'est 7th grade, donc c'est genre 13 ans, 12-13 ans.
Ok, ouais. Et c'est horrible parce que Maddie, quand elle est jeune, elle ressemble à une sœur que je connais, donc ça me fait un peu me rendre. Mais.
Et comme quoi ?
Tout le début de la scène, c'est pour voir à quel point que Owen est sous le contrôle de fou de sa daronne, qui fait à peu près... Bah, c'est une daronne, quoi. Enfin, c'est bien parce que je l'ai pas trouvé non plus vilainifiée, je pourrais pas dire, genre... Elle est pas méchante, elle est juste... il y a des choses à faire, elle veut pas que son fils traîne n'importe où, c'est une daronne, quoi. Genre.
Oui,
elle est très réelle, toi. C'est pas une méchante Disney.
Alors ça après c'est un truc que j'ai pas forcément trop compris parce qu'il va dans un bureau de vote au début du film et alors sa mère elle a on vote pour l'homme saxophone donc il est visiblement Bill Clinton je l'ai mentionné là-dessus évidemment c'est lui et moi j'étais en mode bah attends mais c'est est-ce que c'est genre elle va voter avec son gosse et fait genre c'est lui qui vote ou est-ce qu'il y a un truc dans les écoles américaines qui font que des fois tu fais des faux votes pour je sais pas trop
oui, parce que c'est genre un truc du genre un jeu à la con machin
Ah oui, bah ce serait plus logique que ce soit ça, parce que je pense pas qu'elle ait le droit de vote si jeune aux US.
Non, je pense qu'elle vote pour. Soit elle vote pour lui, enfin tu sais, c'est un peu. Enfin, quand j'ai accompagné ma mère pour voter, c'est moi qui mettais l'enveloppe machin, toi, genre. Par contre, le fait que les Américains, eux, ils sont tous électroniques, ça me fout droit un peu, mais c'est. Mais bon, on va pas se moquer tout le temps des Américains. Quoique, c'est quand même fun de se moquer des Américains.
Mais ouais, il y a un truc qui m'a fait rire aussi dans cette scène, alors surtout durant son échange avec Maddie. C'est comment vraiment pour être Pink Opaque, c'est un truc très sérieux. Et moi, ça rappelle vraiment beaucoup comment tu pouvais parler de tes séries quand t'es assez jeune, quoi. Non, c'est pas du tout une série pour enfants, enfin.
C'est pas pour les enfants.
La mythologie est beaucoup trop compliquée pour les gosses. Et puis, ça fait vraiment trop peur aussi. ça me fait trop rire, quoi.
Mais j'essaie de chercher un show qui était comme ça à l'époque, mais à part les animés merdiques, toi, que je regardais gamine, j'ai pas d'idée de... Après, je regardais plus d'animés que de vrais shows.
Bah, le truc, c'est que... On l'a tous vécu, en fait, et on l'a toutes oublié parce que on oublie ce genre de choses, mais en fait, c'est le problème de la jeunesse, c'est que...
c'est con de jeune.
Tu réagis toujours en référentiel par rapport à ce que tu connais. C'est-à-dire que la douleur que tu es en train de ressentir sera toujours la plus grande douleur que tu aies jamais vécue. Tu tombes amoureux, ce sera le plus grand amour que tu aies jamais vécu jusque-là, en fait. Et du coup... Tu vas te saucer sur le show que tu regardes, même si c'est le truc le plus naze du monde, mais ce sera le show, le meilleur show que t'aies jamais vécu jusqu'à maintenant. Et si ça tombe à une période où tu te construis, eh ben, tu vas y projeter et tu vas y récupérer ce dont t'as besoin à ce moment-là, quelle que soit la qualité intrinsèque du show, quoi.
C'est fou, ça me rappelle quand je faisais du badminton, donc c'était avant le Covid, donc c'était il y a 30 ans. Et c'était genre, il y avait un gamin qui jouait avec moi, et c'est vrai que c'était un enfant, genre début lycée et tout. Mais on jouait souvent ensemble parce qu'on était à peu près du même niveau, donc nul à chier. Et il venait de découvrir Death Note, toi. Et lui, il était vraiment en mode, oh putain, mais c'est tellement un truc intelligent le mec, putain, il fait des trucs comme ça et tout. Et moi, j'arrêtais en mode, ah ouais, elle, il est trop intelligent. Ouais, waouh, what? Et vraiment, il y a un peu de. Et je me rappelle, moi, parce que moi aussi, quand j'étais gamine, et en fait, c'est un peu parce que j'ai un peu le rapprochement avec Owen et Maddie, c'est que moi, gamine, je traînais aussi avec des gamins qui étaient plus vieux que moi. Pour le meilleur comme pour le pire, on va dire, mais je dirais pas plus dans les détails. Et le truc, c'est que, il y a un côté, c'est tellement facile, en fait, d'être absorbé par les paroles quand ils parlent de trucs de merde. Moi, je me rappelle, j'avais un de mes potes de résidence, il m'a fait tout le lore de Serious Sam, mais comme si c'était un truc genre incroyable et tout, alors que Serious Sam, ça pue la merde dans le lore, toi. Et moi, j'étais en mode, oh putain, quoi ? En plus, c'est des jeux vidéo, mais moi, j'ai pas de jeux vidéo chez moi, parce que ma mère, elle veut pas que ça foute en l'air la télé, toi. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est une relation de dominance qui... c'est un mot bien fort parce que c'est juste des gamins qui disent des trucs de gamins, toi. Mais il y a quand même un effet de... limite, ce qui va se passer quand Owen va commencer à dormir en boucle chez Maddie pour aller voir le show, il va se foutre dans la merde parce que littéralement, il ment à sa mère pour aller faire les soirées Girls Night, on va dire.
Oui, une bonne appellation, je pense.
Girls Night.
Ouais, après avoir discuté longuement avec Maddie, Owen est vraiment omnibilé par Girl Pack et elle lui propose de venir passer la nuit pour regarder le show avec elle. On découvre aussi la pote à Maddie, j'ai oublié son nom, je crois.
Amanda.
Amanda.
La traîtresse.
Mm-hmm. Et là, bah, il va découvrir Pink Opaque et c'est un show guest des années 90, quoi. Hein,
j'ai quand même beaucoup aimé la glace là dans l'épisode, là vraiment, le truc, espèce de truc un peu dégueu et dégoulinant. J'étais là, ah, ok.
c'est un beau monstre, toi.
Ouais.
Je tiens à dire qu'on a commencé en disant que ça commençait avec Owen devant la télé, c'est pas tout à fait le cas. On a d'abord un travelling avant sur la route avec des dessins au crayon. Et dans le fond, on a un camion de glace avec la musique qui joue, mais on est en pleine nuit. Ce qui n'est pas normal / logique. Voilà.
Mais pas un odeng.
Et là, on parle d'un monstre glace.
En fait, c'est pas un film de trans, c'est un film sur le lobby laitier, quoi.
Merde.
Non, ça ferait beaucoup plus peur si c'était le cas, je pense.
Mais du coup, dans cette nuit-là, on apprend aussi que Maddie, elle se fait frapper par son père parce qu'elle lui dit « pars à l'aube parce que sinon, il va encore me casser le nez. » Et lui, il est là en mode « quoi ?» Donc on apprend que Maddie grandit quand même dans un contexte un peu compliqué.
Yep. Hashtag bizarre l'ambiance. Tout le long du film, en fait, on va suivre la relation Maddie et Owen sur le long truc. Parce que du coup, Owen, lui, il est pas privé de télé, mais il est interdit de télé à telle heure, toi. C'est que moi, en fait, il peut pas voir les shows de Adult Swim. Pour ceux qui savent pas, Adult Swim, c'était une chaîne qui passait sur... Nickelodeon, je sais plus si c'est Nickelodeon ou Cartoon Network, sur Cartoon Network, et en fait, Adult Swim, c'était les shows qui passaient le soir pour adultes, et du coup, bah, les enfants, ils n'avaient pas le droit, toi. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de shows comme.
Queen du futur, j'ai fait plein d'erreurs dans mes citations de shows passés sur Adult Swim. On a enregistré sous 40 degrés. Donc j'en fais la phrase sans erreur. Les shows qu'on pouvait voir à l'époque, c'était des shows tels que Metalocalypse, Moral Aurel, Venture Bros et Xavier Renegade Angel. Je suis de ceux-là. Car je les ai vus, et oui, ce sont des shows pour adultes, aussi bien dans le gore montré que les sujets abordés. Par exemple, Moral Aurel a été cancel suite à une saison 3 sujet trop sombre dans les thèmes abordés. L'alcoolisme familial, violence conjugale et infantile, place oppressante de la religion dans la vie des personnes. Bref, un show que je conseille vraiment, mais à un vrai public averti.
Robot Chicken, par exemple, c'est typiquement le genre de show que nous, bah en France déjà demain, mais aussi on regardait ça sur internet en fait, avec mes amis en primaire ou au collège, tu vois. Parce qu'on pouvait pas voir ça autrement. Et en vrai, il y a des trucs, je me rappelle, qui m'avaient vraiment bien choqué du fou. Hein. Genre, je t'avoue que le truc, c'est que il y a toujours le problème de « Ah, mais c'est des dessins animés, c'est pour enfants. » Et du coup, bah aussi bien, parce que c'est un peu des gros edgy de merde, donc ils vont faire plein de trucs violents exprès pour.
Mm-hmm.
Mais je me rappelle, il y avait des épisodes de Metalocalypse où là, ce sera l'instant gore qui dure 5 minutes. Et vraiment, genre, c'est « Ah ouais, bon, bah ok, d'accord.
» Oh, so that just happened.
C'est ça. Eh, mais cette image va me rester en tête toute ma vie.
Eh, tu connais Petri Friend?
Ah oui,
et
oui,
c'est drôle parce que j'aimais plus Petri Friend gamine que maintenant, je t'avoue. Mais j'avais vu tout
parce qu'il y avait ce côté un peu edgy. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'était Robot Chicken, justement. Vu que tu en parles. Mais d'accord, Robot Chicken, c'est le truc qui était en pâte à modeler, là.
C'est pas pâte à modeler, vraiment. C'est des sortes de figurines d'action articulées. Des figurines articulées.
Ah, c'était peut-être pas Robot Chicken, du coup. Moi, je me souviens que c'était un truc qui repassait sur MTV.
J'avais pas MTV.
Mais en tout cas, c'était vraiment des trucs justement qui étaient en stop motion et tout. Et en fait, je me souviens qu'il y avait un épisode, c'était genre un combat de catch et tout. Puis en fait, ça part en couille. Et en moi, il lui retire carrément la peau du dos, puis il lui retire la colonne vertébrale. Et moi, j'étais en mode, ah, ok. Moi, gamine, j'ai repoussé ça. J'étais en mode, eh ou.
Leur amitié, du coup, continue à fleurir jusqu'à grandir. Et en fait, dans la vie de Wen, ça va pas aussi bien parce que sa mère est malade. Et on sent que son père, c'est. Bah, déjà, son père, c'est Fred Durst, on rappelle donc bizarrement. Il dit n'importe quoi, il fait You dance, motherfucker! Et le truc, c'est que. Il y a un peu. Alors que là, il est plus vieux, donc en fait, il y a le côté. Ah, je peux regarder ce show, même s'il est un peu tard le soir, ça s'appelle Pink Opac. J'ai Pink Opac, mais c'est pas un show pour gamine, pas pour fille.
Ouais, on est 2 ans plus tard là, du
coup. Et je me rappelle, moi, gamine, on avait ça pour Totally Spies, toi. Même si ma mère a toujours regardé Totally Spies avec moi, elle a toujours été ok avec ça, toi. Peut-être elle aurait pas dû maintenant que j'y pense, mais. Mais je veux dire, c'est que.
Ne détruis pas tes passions de la sorte, meuf. N'émigre pas.
J'avais lu ça pour Quora. Les gens de Quora, c'est que les producteurs de télé avaient peur. Enfin, ils avaient peur de Quora. Ils avaient peur qu'une femme, dans un show pour garçons, ça fasse perdre l'audience aussi bien. Bah, parce que les garçons ne veulent pas le voir un show qu'une fille. Et les parents, ils vont pas laisser leur garçon regarder une show avec une fille en perso principal, quoi. Et bah, ils ont prouvé que c'était tort parce qu'elle a eu beaucoup de succès, du moins les deux premières saisons. Enfin, bizarrement, quand ils avaient du budget, c'était un bon show, et quand il n'y avait plus de budget, c'était de la merde. Qui aurait pu prédire? Mais je trouve ça assez drôle comment ça, à l'époque, ça avait changé. Et je pense qu'il n'existe plus vraiment de nos jours des shows pour filles. Ouais, il doit toujours avoir du slop, toi. Mais ce que je veux dire, en mode, genre un garçon, il peut regarder Shira, je pense, toi. Ou Steven Universe. Et une fille peut regarder. Les filles regardaient déjà les shows pour garçons.
Oui.
Bah, le truc, c'est que moi, ça fait longtemps que j'ai pu traîner en collège ou lycée. Donc je sais pas à quel point ça peut être encore genré. Mais je sais que quand on
heureusement.
Est. Quand, oui, heureusement. Quand on est dans des milieux comme ça, quoi, assez jeune, on a tendance à être vraiment ultra genré, à se construire autour de ça. Mine de rien. Et du coup, je sais pas du tout s'il y a justement des trucs qui sont vraiment considérés comme pour mec ou pour fille plus jeune. Ça, je suis pas attention.
Je vais être honnête avec vous, mes nièces qui sont au collège, elles regardent Netflix, elles regardent des dramas coréens, donc...
Ouais, bon, voilà.
C'est vrai que maintenant, il y a toujours du parental control, mais c'est un peu le... Par exemple, je sais que Has Been Hotel, et je sais plus quel autre show de merde, là, Elle va boss, je crois, c'est aussi sur... C'est anéantiquement un show sur adultes. Mais je sais qu'il y a plein de gamins qui regardent, toi. Ou il y avait ça aussi pour FNAF. Techniquement, c'est un jeu d'horreur pour adultes, mais il y avait plein d'enfants qui regardaient.
Alors, plus Five Nights at Freddy's, toi, tu parlais du mec qui te faisait tout l'or de CEO Sam. Bah, visiblement, Five Nights at Freddy's, c'est un peu devenu un peu ça aussi, vu qu'à chaque fois, il rajoutait un peu de l'or et tout. Et t'en as plein qui diguent dans le lore en mode, ouais, c'est un truc super sérieux.
Oui, oui, bah, c'est vraiment, c'est un très bon parallèle que tu viens de faire, Civil, parce que c'est vraiment la même chose.
Yes!
J'ai pas envie de dire que, moi, la vidéo des 5 heures de Feldup sur FNAF, elle me fait rire parce que ça me rappelle moi, j'étais pas dans l'ordre de FNAF parce que j'étais adulte, j'étais dans l'ordre de Slenderman.
Ah oui, oui, bah oui, bah ça oui, c'est le même truc.
Et des creepypastas, et moi j'ai malheureusement un gros knowledge. Si vous avez le malheur de m'offrir un verre au bar pour essayer de me séduire, sachez que vous allez choper 5 heures de non-entendu de creepypasta dans votre tronche. Et en fait, Jeff the Killer, en fait, il n'était pas seul, parce qu'en fait, il vient d'une famille de tueurs, en fait. Et il passait dans les miroirs.
Et il y a des creepypasta qui m'avaient quand même sacrément marqué.
Ah, mais... et quand il les revoit maintenant, t'es en mode... Ah ouais.
Tel avec le show pour enfants de pirates, là.
Oh, oh putain, machin cove. Le truc où c'était
oui,
juste...
Oui, 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 c'est ça. Ça m'a marché,
moi aussi,
quand même.
Ça fait trop, trop peur.
Ouais.
C'est con à dire, mais voilà, c'est genre... Et c'était parce qu'il y a un côté, pas curiosité morbide, parce que c'est tout de gain, mais genre, outrepasser l'interdit, qui donne envie de voir ce genre de truc. Genre, oui. Je sais que j'ai regardé South Park quand on était en primaire, parce que ça disait des gros mots, toi, donc...
Cela dit, moi, je sais que j'avais beaucoup ça, parce que mes parents regardaient beaucoup de films d'horreur, et avec ma sœur, on essayait toujours de voir des petites images, de voir voilà, les trucs un peu gore aussi. Et quand j'ai eu 12 ans, j'ai regardé Destination Finale 2 avec mon père et ma sœur. À la première mort, après la scène de carambolage, à la première mort, j'étais choqué, je me suis levé, je me suis barré, et j'ai rallumé Mario et Luigi, les frères du temps.
C'est quoi la petite... l'échelle dans l'œil? Non, je sais plus, je les confonds tous.
Ça, c'est l'échelle dans l'œil, elle m'a vraiment choqué. Moi, j'étais là genre...
Qu'est-ce qu'il est nul, ce film, en plus.
Eh, faudrait que je le revoie, parce que c'est mon préféré de la saga.
Ouais, bah, revois-le avant de dire ça.
J'étais au collège quand je l'ai vu, justement. Je pense que je devais avoir... On a peut-être me regardé en même temps.
Ne fais pas confiance en tes choix quand t'étais... Tu n'as pas vu le film, tu n'as pas vu que Pinko Pake, en fait, bon, bah, voilà.
En fait, tu vois, Destination Finale 2, je trouve que jusqu'à cette mort-là, il est bien. Après, il y a un gros ventre mou, puis après, ça enchaîne les morts, et du coup, bon, voilà.
Et ouais, du coup,
les morts, elles sont nulles. Les morts, elles sont nulles.
Ouais, il y a pas mal de morts, c'est pas terrible. Et toi, t'essaies de continuer sur...
On va continuer le film. Du coup, après avoir survécu au carambolage, il y a un mec qui fait... Attends, ça c'est Destination Finale 2. Donc du coup, dans le film, la relation entre Maddie et Owen va se développer sur le fait que, vu que lui, du coup, il n'a pas accès à la télé, elle va lui enregistrer tous les épisodes de Pinko Pack sur VHS. Et il va les regarder en boucle. Et il y a un effet... J'ai envie de dire Godard, mais... il fait de la méta, en fait. Il parle à l'écran en mode... ouais, donc le temps est passé. Maintenant, j'ai fait ça. Il s'est passé ça...
Ouais, il fait la narration du film, ouais, exactement. Il y a un truc, moi, que j'ai noté quand on a ce plan séquence où, justement, tu sais, où il dit qu'il lui file les cassettes et tu vois toutes les annotations sur l'écran et tout, il traverse l'école.
Très, très cool.
Alors, moi, t'as un panneau où c'est écrit « Pain is weakness leaving the body ».
Oui.
Oui, à côté du gymnase.
Absolument, à côté du gymnase, ouais. Et donc, du coup, je trouve que ça montre assez bien dans quel type d'éducation... lui et nous, en fait, globalement, on grandit, parce que du coup, il y a cette espèce de manière de se dire que la souffrance, au final, c'est quelque chose de plutôt positif et que du coup, il faut aller vers ça. Mais du coup, en voyant les choses comme ça, on a parfois du mal à comprendre ses propres limites, parce que si on commence à se dire que quand on a mal, c'est, il y a du positif, bah, on n'arrive pas exactement à savoir quand est-ce qu'il faut dire stop. Et du coup, lui, dans son cas, je trouve que c'est très pertinent, parce que lui, qui passe son temps à ne pas vivre, en fait, et à souffrir, à étouffer, il a du mal à voir le moment où, en fait, il doit faire un truc pour pour sortir de cet état-là, et puis il passe son temps à se dire « Non, mais ça va finir par aller à un moment. » Et bah, du coup, je trouve que justement qu'on voit ça dans son école, c'est assez symptomatique de la des réactions qu'il va avoir aussi dans le reste du film après.
Certes, oui. Mais après, il y a un peu un côté où bah, c'est des outcasts qui restent qu'ensemble. Et encore, j'ai l'impression qu'il reste juste avec une personne, toi. Donc c'est pour ça que, techniquement, on voit pas quand Maddy va disparaître et que lui va rester seul, toi. Mais...
Ouais, bah, il est très isolé.
Bah, moi, c'est un problème que j'ai pas connu, donc je vais rien dire, toi.
Bah, vas-y, dis, moi, je vais dire de quoi tu... Quel problème ?
Pourquoi vous parlez pas aux autres gens et levez votre cul un peu, bande de losers ? Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que... non, pour de vrai, j'ai eu cette conversation récemment avec un ami qui, bah, depuis la fin de la fac, il connaît plus personne, toi. Il rencontre plus de nouvelles personnes. Je suis pas en mode... Bah, moi, je sais que, par expérience, je vais dans des trucs de hobbyistes, des wargames et tout comme ça et tout, et le lieu où je bosse, c'est des lieux où il y a beaucoup de rencontres sociales, et ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, et des fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a des gens qui veulent pas sortir exprès, tu vois, je sais pas, pas exprès, c'est un grand mot, mais bah, c'est tout l'effet Shinji Evangelion, à s'être trop enfermé, en fait, il loupe tout, toi. Mais si tu veux, moi, tu peux rebondir.
En ce qui me concerne, je veux pas parler pour toutes les personnes qui ne parlent pas, qu'elles fassent un peu le boulot elles-mêmes, c'est feignasse.
Toujours, c'est ce que pensent tous les membres de Queen Club, sachez-le.
Voilà, mais en ce qui me concerne, moi, le problème, c'est surtout qu'il y a une incompatibilité entre moi et la plupart des gens que je croiserai de façon aléatoire dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que, ouais, c'est pas difficile d'aller à un endroit et de parler à des gens, sauf que la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie... ça va pas aller quand on parlera ensemble, en fait. Et...
Tu parles des fétistes ?
Non, je parle d'expérience, meuf. C'est-à-dire que la plupart des gens ont une façon de penser, des valeurs qui sont pas les miennes, et inversement, les miennes ne sont pas les leurs non plus, et que juste une conversation avec ces personnes-là va sans doute rapidement amener des frictions, en fait.
Je peux totalement voir.
Tu devrais te balader avec un octogone sur toi, comme ça, dès qu'il y a une friction, tu commences à l'installer au sol, tu fais « Bon, allez, viens, on va régler ça de
va
manière... »
Elle va affronter tout son village, après.
Exactement. Va affronter des moutons, moche.
C'est pas les moutons qui posent le plus de problèmes.
Oui, j'allais dire, c'est bien les gens qui font pas chier dans son village, c'est bien les moutons. Hein,
Dans l'ensemble, les moutons sont chill, oui.
Il revoit sa pote Maddy, qui a été outed par Amanda, donc la pote qu'on a vue au début du film, et elle est encore plus ostracisée. Et il y a un côté de... Bah, Owen aimerait essayer de la rassurer en mode « Si tu veux, je peux venir voir Pink Opak avec elle. » Et là, c'est là où elle va dire « Non, mais tu sais que j'aime les meufs. » Et lui, il fait « Non, mais moi, je m'en fous. J'aime que la télé, toi. » Je sais pas comment dire, parce que « I like TV show. »
Bah, j'aime les séries télé.
Ouais.
Parce qu'en fait, elle veut être sûre qu'il vient pas, genre, en espérant
pour essayer de la
pécho,
ouais.
Voilà.
C'est normal.
Oui, c'est ça. Donc, c'est, au moins, niveau communication, elle est déjà pas mal. À leur âge, moi, c'était... bon. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que il y a vraiment aussi ce truc qui était ultra présent quand t'étais genre au lycée, c'est que dès que t'imagines qu'il y a une personne qui est gay, tu vas te dire immédiatement, en fait, elle voulait pêcher toutes les autres personnes qui étaient de son genre, quoi. Alors, un mec dit, elle est gay, mais en fait, tu voulais toujours nous pécho. Mais non, en fait. Et du coup, il y a vraiment ce truc aussi avec sa pote qui est là en mode, putain, elle a essayé de me toucher le boobs.
Moi, j'ai plus eu le, je sais que t'es bisexuel. Tiens, je connais quelqu'un qui est aussi bisexuel. Vous allez trop bien ensemble, Sean. Bah, non, en fait, ça marche pas comme ça.
On est bisexuel, quoi. C'est.
Tu sais, c'est genre, ah bah, il y a deux gays, donc il faut forcément finir en couple. Je suis en mode, bah, ça marche pas comme ça la vie. Bizarre, hein, je sais, mais.
Je crois que c'est ça le plus triste quand tu grandis genre dans un petit village et qu'il y a juste deux personnes gays, du coup, sur le mode, bon bah.
J'ai qu'il y a deux personnes gays, c'est incroyable, toi. Out.
Oui, c'est ça, mais c'est genre, t'es gay, il y a une autre personne gay qui arrive, t'es en mode, bah, attends, bah, c'est le moment, en fait, parce que j'aurais plus d'autres chances. C'est un peu assez horrible, en fait.
Et du coup, en fait, ils vont passer leur temps à regarder le show jusqu'au moment où ça va tout foirer parce que.
Alors attends, je juste comme revenir sur la discussion parce que il y a aussi un moment où là il y a Owen qui parle vraiment de comment il se sent et qui a vraiment ce truc de j'ai l'impression que quelqu'un est arrivé avec une pelle qui m'a retiré tous mes organes à l'intérieur puis a refermé et j'ose jamais regarder en moi parce que j'ai peur de retrouver ça. Et puis justement, elle qui lui répond, bah t'es peut-être comme Isabelle qui est un des personnages principaux de The Pink Opaque. T'as peur de ce qui est à l'intérieur de toi. Et je trouve que cet échange... Bon, déjà, cet échange, la première fois que je l'ai vu, il a un peu tapé fort. T'as pas l'air en mode... Ouh, ok. Donc moi, j'avais déjà commencé à pas mal relate avec les persos à ce moment-là.
Ah putain, moi, C'est drôle parce que moi j'ai pas du tout relate du tout. Le vrai truc c'est que surtout que moi j'ai jamais rejeté ma transsexualité comme ma bisexualité. J'ai plus rejeté mon asexualité.
Ouais.
Qui est littéralement un truc que je déteste, toi. Genre, sincèrement, si je pouvais avoir un truc, ce serait mon asexualité. Je déteste le fait que je suis ace. Parce que bah, c'est un truc tout court, mais notre société nous a appris que l'amour slash le sexe est la plus grande chose que tu peux faire avec une personne en couple. Du coup, moi j'ai passé mes années de fac à coucher à gauche et à droite sans éprouver de plaisir et je me pensais fucked up, toi. Limite, là, je me rappelle toujours parce que c'est l'image que j'ai eu en tête le jour même où j'ai. C'est à peu près personnel, désolé si vous écoutez ça en live et tout, mais genre où j'ai littéralement peloté une meuf pour la première fois. J'avais l'impression d'être à la plage et que je mettais mes mains dans du sable en fait. Genre, y a rien quoi. Mais genre, y a rien. Je mettais mes mains et là tu fais quelque chose, je fais bah. J'ai des mains dans le sable quoi. Genre, il se passe rien quoi.
Je vais faire un château de sable avec tes boobs.
Bah, enfin voilà. Et le truc c'est que j'ai passé toute ma relation amoureuse. Et beaucoup de trucs qui me sont arrivés en plus, que ah mais peut-être si je picole machin, ou alors si je trouve la bonne personne et du coup je me mettais en couple avec des gens que j'aimais pas, mais que peut-être en fait machin, ou alors les gens ils voulaient sortir avec moi, j'acceptais parce que bah voilà, mais en fait au bout de 3 semaines ils avaient pas prêt de sortir pour moi et moi j'avais rien, donc ça me détruisait. Bref, en fait c'est un peu un truc de il y a des choses, des fois tu sais ce que c'est et ça te détruit et tu peux rien y faire, toi. Genre, il y a à part à essayer d'accepter. C'est toujours un peu compliqué ce genre de situation, quoi, en gros. Enfin, tu sais, genre, si on prend la perception de autre que trans, mais genre, par exemple, c'est une autre sexualité, bah, des fois, ça marche pas.
Le problème vient quand même en grande partie du fait qu'on a construit des sociétés où il n'y avait pas d'alternative, en fait.
Je trouve que c'est ça le plus compliqué, c'est quand t'as grandi une société qui t'a donné une certaine image de ce que c'est qu'être bien, qu'être sain, qu'être heureux, et que toi, en fait, t'es pas conforme à cette image-là, et après, tu dois toi-même te reconstruire d'une autre manière, mais quand même en te disant c'est je reste une personne bien dans ma vie et heureuse comme ça, en fait. Alors je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible parce qu'il y a plus de personnes qui ont reconstruit d'autres visions de ce que c'est que d'avoir une vie stable, saine et sympathique, sans forcément que ce soit avec la vision hétéronormée de gosse, un chien, tout ça.
Un peu trop d'ailleurs.
Mais bon.
Dans les représentations, le sexe est quand même encore très surcoté, hein. Enfin...
Alors, je suis d'accord avec ça, je suis vraiment d'accord.
Désolé
avec
pour
ça.
Les gens qui voilà, mais...
Désolé pour nos amis gooners qui se branlent sur le podcast. Hein,
C'est un peu... On rappelle, hein, mais le sexe, c'est bien quand c'est bien, mais quand c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Enfin...
Mais c'est vrai, en soi, le sexe, c'est vraiment un truc qui est très éphémère et qui est, ok, sympathique, mais moi, j'avoue que je mets pas toutes mes billes dedans. Et je l'ai assez vite compris, ça. J'étais en mode, ok, c'est sympa, mais en fait, au final, c'est pas le truc qui va me fulfill, en fait.
Non, pas du tout.
Et ce qui va pas le fulfill non plus, c'est le fait qu'il va retourner chez Maddy et elle a disparu. Elle avait dit qu'elle partirait de la ville, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle a carrément disparu et sa télé a explosé.
Avant ça, il y a eu juste le moment où il était retourné chez elle et qu'elle s'est mise absolument à chialer juste à côté de lui. Il était un peu en mode, oh, bizarre l'ambiance. Et justement, cette nuit-là, elle lui a dit, je vais me barrer le samedi prochain, prends tout ce que tu peux avec toi et on va disparaître. Sauf que lui, entre-temps...
Il ne le dit à personne, surtout pas à ta mère, sauf qu'on sait que sa mère est bien malade.
Oui.
Donc il n'a pas envie de se barrer.
Et bah, sa mère va décéder, justement, entre-temps. Et
non,
bah,
du coup, il va rester... C'est après, parce qu'en fait, du coup, Maddy, elle dit...
Alors non, elle a raison, mais c'est en deux temps. C'est-à-dire que quand elle lui dit ça, lui, il va voir la mère de famille chez qui il prétendait faire les sleepovers pour lui dire « Il faut que tu balances à mon père comme ça, il va me punir et je ne pourrai pas y aller. » Sa mère meurt et après, Maddy disparaît.
Voilà.
Alors, fun fact, l'actrice qui fait la daronne de Johnny Link, c'est une des actrices de... c'est pas Fred Durst. C'est une des actrices de Buffy contre les vampires. C'est Amber Benson qui joue Tara dans Buffy contre les vampires, qui apparaît saison 4 jusqu'à saison 6. Donc voilà.
Ah, je sais pas, moi je suis adulte, donc je regarde pas ce genre de show. Mais...
On a littéralement une référence directe à Buffy contre les vampires via le casting. Incroyable.
Incre. Du coup, moi, tu peux continuer ce que tu voulais dire.
Bah non, moi j'expliquais juste que du coup, d'abord la mère meurt et après l'autre disparaît.
Oui.
Et au moment où ça meurt, Pink Opac est cancel le mois d'après, et on est tout de suite 8 ans plus tard.
J'aime bien les gros gaps comme ça, parce que ça commence avec juste 2 ans, puis après d'un coup 8 ans, et t'es là, waouh, okay,
et il s'est rien passé dans sa vie.
Oui, yes, il a même pas changé de vêtements.
I can't relate, attends.
Il pourrait être littéralement moi.
Ouais.
Et il bosse dans un Chuck E. Cheese de merde avec des employés de merde.
Oh putain.
Est-ce que c'est une FNAF référence?
Putain.
Il y a un truc incroyable, c'est quand il ouvre la porte de son manager qui le surprend.
TTS, ouais.
La porte, fait un bruit de vieille porte rouillée, mais c'est vraiment vieille porte rouillée .mp3. Je sais pas pourquoi ils ont utilisé ce...
Parce que c'est le bruit d'ouverture de porte, je sais, parce qu'ils en avaient parlé pour les backrooms. C'est qu'en fait, c'est un peu le Willem Scream, mais des SFX de porte, en fait. Le... C'est comme... Il y a un peu frais ce genre de truc, donc c'est peut-être un truc qui tente comme ça. C'est un peu comme... c'est genre, il y a un truc qui casse et il y a un chat qui fait... Et il se barre. Mm. C'est ce genre d'SFX à la con, toi.
Ah...
Ah ouais.
On va essayer d'en trouver un autre par contre, parce que la porte, elle fait vraiment. Elle peut pas faire ce bruit. Mais...
J'ai tellement pas capté.
Et en rentrant du boulot, il tombe sur un effet surnaturel.
Oui.
Parce que je pense pas que l'électricité fasse ça. En fait, elle est au milieu de la route. Il y a. C'est quoi ? C'est genre, il y a une branche au milieu et. En fait, il y a un truc qui a explosé en fait.
T'as des fils électriques qui sont tombés avec une branche. Sauf que, bah, en termes d'effet. Pour ceux qui ont vu Pacific Rim, la brèche interdimensionnelle qu'il y a au fond de l'océan, la même mais en bleu avec des éclairs tout autour. Quoi. C'est
pas la première fois qu'il a une vision surnaturelle, parce qu'il y avait un moment où il était resté chez Maddy, et puis au moment de s'endormir, il regardait au-dessus de lui, il y avait une espèce de lumière un peu flottante, comme une espèce de spectre et tout.
Oui,
exactement.
This is not the first time.
J'ai l'impression que ça va très vite, parce que le film... En fait, le film est pas long, il fait 1h40, mais surtout qu'en fait, c'est des longues scènes, en fait. Donc ouais. C'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que je vais très vite, mais le film va très vite dans ces scènes. Alors qu'il fait les courses, il tombe sur Maddy qui fait une petite pause.
Elle fait
avec
pas une petite pause.
Un énorme morceau de viande dans la main.
Oui, pourquoi elle tient cet énorme morceau de viande dans la main comme ça, là, même pas emballé, c'est... D'accord.
Alors moi, je crois que c'est un sac plastique, donc je t'avoue que...
Woman is packing.
Non, she want to touch the meat, je sais pas, genre...
Ah ouais, non mais... Je crois qu'en fait, elle était là à caresser la viande et tout, elle l'a emporté avec elle, d'un coup, elle a vu Owen et elle a freeze.
Enfin, je pense que c'est plutôt elle qui allait les chercher, mais il doit y avoir un truc pour la viande sans doute. Vous nous direz dans les commentaires pour vous ce que c'était.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Ouais. Et concert de I Saw the TV Glow, le groupe the Movie, The Money, The Bag. C'est de la salle de pop proche de The National, je dirais.
Ouais, bah c'est... En fait, j'entends beaucoup de trucs un peu shoegazy. Je trouve que la musique, c'est aussi un peu ça, tu vois, c'est très... très ambiante doux et un peu nostalgique.
Mais ouais, ambiante sad pop, parce que shoegaze, il y a vraiment un effet sur le son de la guitare qui veut faire un écho bruyant. Ah. Il y a vraiment un côté bruyant, toi. Là, c'est vraiment juste planant. Et le truc, c'est que je ne connais malheureusement pas assez les artistes que les lesbiennes et les gays adorent. Donc, je connais très peu Carpenter. Je connais très peu. Comment ça s'appelle, Chappell Roan. C'est pas des artistes qui me plaisent, mais je pense que c'est à peu près dans la même vibe.
Oh, Chappell Roan, je suis pas sûr que ce soit très shoegaze.
Chappell Roan, c'est quand même beaucoup plus pop. Hein.
Non, je parle de ce que chante la meuf à Sauce TV Glow.
Ah, oui.
Non, je trouve pas que ça ressemble beaucoup à Chappell Roan, honnêtement.
Maddy veut que Owen se rappelle de ce qui s'est passé pendant qu'elle regardait Pink Opaque, et on découvre que Owen se découvrait et que eux s'en rappellent pas.
Et c'est là où on a les scènes de Owen avec une robe, justement.
Oui.
Il y a eu des essais.
Et c'est, en fait, c'est trop bizarre parce que quand on sait le twist, genre il y a un peu des trucs qu'on comprend pas trop comment ça marche, parce que là du coup en fait il lui révèle à peu près tout le problème, c'est que en fait elle et Owen sont les persos de Pink Opaque. Parce qu'en fait, on apprendra que la fin de Pink Opaque, en fait, les héros perdent. En fait, ils sont brainwash. Mr. Brainwash, chat out, bien sûr.
Oh putain. Tu vas pas l'assumer s'il l'entend.
En fait, elle a un plan pour contrecarrer. C'est pas Monsieur Evil, c'est
Mr. Melancholy.
Mr. Melancholy. Et en fait, il y a à peu près toutes les révélations. Ils sont pas en mode. C'est là où, en fait, il y a trop de thèmes, en fait, qui rentrent en conflit pour moi.
Je sais pas. Dans toute cette séquence-là, Owen revoit le dernier épisode où c'est Tara et Isabelle qui se font un peu emprisonner par Mr. Melancholy. Il leur arrache le cœur. Il leur fait boire le Luna Juice. Et puis après, il fait un petit discours à Isabelle avant de l'enterrer où il lui, d'ailleurs, il y a les effets de la lune sur son visage qui sont assez stylés, en vrai. Et il lui dit en gros qu'il va les inviter, il va les emprisonner dans le Midnight Realm, que ce sera pas si mal que ça, qu'il va leur effacer la mémoire, et il montre une boule à neige devant elle, et dans cette boule à neige, on voit Owen devant une télé, en train de... Et ça rappelle un peu la première scène du film. Exactement. Donc du coup, Ça fait un peu dire en fait que tout le film, c'est le Midnight Train dans lequel Isabelle et Tara se sont fait emprisonner sous la peau de Maddie et de Owen. Oui. Et du coup, la série se finit sur elles qui se font enterrer vivantes en crachant du liquide bleu. Donc c'est vrai que c'est quand même une fin de série qui est un peu hard.
J'allais dire, je sais pas si Buffy ça se finit comme ça, mais...
Alors non, ça se finit pas comme ça. La saison 5 se finit pas comme ça, même s'il y a un bail où ça devait se terminer à la saison 5, mais...
En fait, il y a un truc que j'aime bien dans cette scène de fin d'épisode, enfin, où ils découvrent la fin d'épisode, c'est que Owen, en fait, il y a un plan contre-champ, il y a Mr. Melancholy qui sourit, et lui, son plan, il passe de 4 tiers à plan large, et Owen passe de plan large à 4 tiers. Donc, techniquement, c'est un peu une inversion des rapports de réalité, où c'est lui qui devient le monde réel, et c'est Owen qui devient le show.
Ouais, ça en fait, ça se rapproche un peu comme dans le même effet, comme dans Mommy, là, où t'as le bandes noires qui referment les personnages et se referment autour d'eux, là.
Bah, je sais pas, j'ai pas vu le film, donc...
Eh bah, tu loues pas truc, hein. Mais tu l'avais refusé quand j'avais proposé. Du coup, on a regardé comme chez moi.
Non, parce que je suis pas fan de films de Xavier Dolan. Et du coup, on comprend pourquoi ils ont cancel le truc, c'est que Owen, du coup, a essayé de passer la tête dans la télé, littéralement. Mm-hmm.
Je sais pas si c'était une manière pour lui d'essayer de se tuer ou de retourner dans la série, en tout cas, il y avait un truc où... Là, pour le coup, il a une énorme crise et il y a son daron qui vient le chercher.
Littéralement.
Oui, littéralement. Il vient le vient chercher, il le fout sous la douche et puis le pan Cohen est en train de hurler « Ce n'est pas ma maison, ce n'est pas chez moi, t'es pas mon père. » Et après, il se met à cracher une espèce de liquide bleu. Mm. Les moments comme ça où, justement, en fait, il est tellement éteint durant tout le film que les moments comme ça où il fait des grosses crises, ça a tendance à frapper assez fort, je trouve.
Moi, je trouve ça drôle comment cet acteur, c'est un très bon acteur, mais que j'ai découvert dans le... Comment il s'appelle, les jeux de merde, là Une Till Dawn, je crois qu'il est dans Une Till Dawn, là, 1 ou le 2.
Ah ouais?
Ouais, et c'est drôle parce que je crois qu'il joue un homosexuel dans le truc. Mais il joue aussi dans Détective Pikachu, donc What the Fuck, les amis.
Oui, et il joue évidemment aussi dans Donjons et Dragons. Oui.
Exactement, il joue dans plein de trucs de nerd, oui. Je trouve ça assez drôle.
C'est vrai qu'il est dedans.
Et je trouve que c'est une très belle performance, et Maddie, t'es peut-être fucked up in your head, mais si tu veux, tu peux contacter le Queenie Club pour qu'on se rencontre. queenieclub@cartonc.com. On sera très ravis de te recevoir et de te parler de Monsieur Melancholy. On t'écoutera avec toute notre attention.
Vraiment, toi, tu peux pas passer un épisode sans faire une annonce et flirter un peu avec les sujets de nos épisodes, quoi. C'est un dingue.
I'm a bisexual woman. Tout le monde me plaît, c'est ça mon problème.
La chair est faible.
la mythe qu'elle tenait au début, c'était mon cœur. Hein. Et elle lui révèle son plan. Et alors je sais comment faire pour revenir dans notre monde. On se suicide.
Oui, littéralement s'enterrer vivant.
Alors, vous connaissez Heaven's Gate? Parce que les cultes à base de. Tu vois la météorite de Bebop? Quand elle passera au-dessus de la Terre, on mange du yaourt avec du barbiturique dedans. Et on se filme en train de mourir. Ok.
Waouh.
Bah, je crois que j'aurais piscine, hein. Et en fait, c'est un peu pour ça que j'ai un peu un gros problème avec le message du film. C'est un peu le truc du genre... Ah là là, faites relier la transition à... Go, on suicide. Parce que oui, alors, techniquement, il faut tuer son soi pour ressusciter et tout. Enfin, je peux voir le truc, mais... Enfin, c'est un show télé qui a été cancel. Calmez-vous, les gens, quoi. Ça, c'est... Il y a eu ça avec... Ah putain, c'était quel show qu'ils ont cancel et il y a des fans, ils ont voulu se buter.
Twin Peaks.
Je trouverais ça en Clunie Future, sans doute.
Moi, là, je l'aurais dit Louis la Brocante, mais...
Ça, c'est pas cancel, Louis la Brocante. Barnaby, bien sûr.
Barnaby, mais ça aussi, c'est pas cancel.
Ça m'aurait fait chier. Barnaby, là, j'aurais peut-être...
Barnaby, franchement, on passerait le dimanche à faire quoi sans Barnaby?
Oui.
En fait, tu vois, je suis pas OK avec l'interprétation que la transition, c'est une mort et une renaissance, quoi. J'aime pas ça parce que c'est un peu se dire que tu deviens plus la même personne, alors que si, en soi, t'es la même personne, juste...
Tu deviens ce que tu devrais être.
Voilà, je ne vois pas la transition comme une mort, et j'ai pas vu le fait de s'enterrer comme une manière de représenter ça comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu ça en vrai. Mais en fait, je vois surtout ça comme... Faut montrer que c'est quand même un big step, que c'est quand même une grosse décision que tu dois prendre, et que du coup, quand une personne choisit de transitionner, elle le fait pas sur un coup de tête, et c'est pas quelque chose de facile non plus, en fait, parce que ça prend du temps à mûrir... Avant de passer le truc, parce qu'en effet, te demander de t'enterrer, c'est que tu fais quand même un gros gamble, en fait. Tu sais pas trop ce que ça peut donner derrière. Donc, on comprend assez bien compris pourquoi est-ce que Owen, il a refusé au début. Parce que ça fait quand même assez flipper, quoi. Donc, je l'ai plus vu ça comme ça. Genre, il fallait trouver une manière de représenter ça, mais de manière assez sérieuse pour montrer que c'est quand même important et que c'est une grosse décision que tu prends pas à la légère. Je trouve que ça marche bien dans ce sens-là.
Bah, moi, je trouve pas, parce que justement, en fait, tout le problème, c'est qu'en fait... Pour moi, rien n'empêche le fait que ces deux adolescents qui ont regardé un show, ils vont se buter, toi. Genre,
oui, mais c'est pas...
Voilà, non, mais parce que nous, on a... Voilà, mais genre, texto, tu prends le texte, t'as deux gamins qui étaient fans d'une série, elle a été cancel, ils vont se suicider, quoi.
Non.
Le truc, c'est que le côté fantastique de « on sait jamais si c'est la réalité ou pas » est quand même, je trouve, dans ce film-là, pas mal désamorcé par le fait qu'on nous fasse des inserts sur des trucs surnaturels qui se passent... dedans aussi, tu vois. Alors, à Pora, on pourrait se dire, oui, mais c'est des hallucinations. Oui, mais d'accord, mais il y a des hallucinations qui sont des choses que lui ne voit pas non plus. Donc, enfin, genre, à la fin, où l'endroit où il bosse, tous les attractions sur lesquelles il bosse, c'est des noms de monstres de la série en question. Enfin, tu vois, ça fait. Ça
fait, oui, bien sûr, dans l'univers du Nord, je peux concevoir, toi.
Il
mais...
y a plein de choses comme ça qui font pas sens si c'est juste un show télé qui a été annulé, en fait.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, j'étais un peu en mode... C'est pour ça que je l'ai compris. C'est pour ça que j'ai pas... Voilà.
C'est vrai que le film, il essaie... Alors, je trouve qu'il le fait bien. Mais en fait, il te parle à la fois de la nostalgie, de ce qu'une œuvre qui va te servir à te construire va t'apporter à toi. Mais ça le fait dans le sens ce que ça t'apporte et comment ça peut te permettre aussi de te révéler ton identité, en fait.
Mm.
C'est aussi dans ce sens-là. Donc, je trouve que, justement, ça marche bien parce que c'est pas rare qu'il y ait des personnes trans qui leur demandent comment ça t'est venu, qui disent, bah, j'ai joué à Céleste et je me suis dit « Oh, mais est-ce que je suis une meuf ?» Voilà, tu vois, enfin, il y a des trucs comme ça, pour parler d'un truc qui me concerne moi, mais même il y en a qui sont posés des questions en regardant des séries ou d'autres trucs comme ça. Enfin, c'est des œuvres de fiction ont parfois aidé aussi à se construire et à se trouver.
Non, mais de fou, de toute façon...
Mais après, tu peux interpréter les symboles de l'œuvre de façon totalement différente.
Absolument.
Le truc, c'est que tu pourrais te dire, par exemple, que... Owen est une meuf trans, mais que sa copine est... c'est pas schizophrène, je sais plus le terme, mais fait, bref, elle est...
Bipolaire ?
Elle a, je sais pas si c'est bipolaire quand t'as des...
Troubles d'identité ?
Bah, c'est pas vraiment un trouble de l'identité, c'est un trouble de la réalité, mais... Enfin, bref.
Alors, c'est plutôt la schizophrénie, ça, oui.
Mais du coup, voilà, lui, bah, elle, du coup, trans... Et sa copine qui lui met cette idée-là dans la tête, et lui qui transitionne pas parce que pour lui, son association à son genre et son association avec son identité dans le truc, et comme il rejette l'interprétation de la réalité de sa pote, il transitionne pas tout en... En fait, à chaque fois qu'il se pose des questions sur sa transidentité, il le connecte avec l'idée qu'a sa pote, et du coup... Il rejette l'idée qu'a sa pote, donc il transitionne pas. Tu vois, tu pourrais le dire comme ça aussi. Et dans ce cas, c'est une histoire totalement différente qui dit totalement autre chose. Et c'est encore plus horrible. Tu vois, enfin, t'as toujours moyen d'interpréter.
Oui, on est 20 ans plus tard. Il y a un peu un montage sur le fait que il a passé à peu près toute sa vie à se demander si elle avait raison et s'il aurait dû devenir quelqu'un d'autre. Et joyeux anniversaire, ça se passe mal.
Il y a quand même des signes qui, je trouve, sont assez intéressants parce qu'elle lui dit justement, il faut que là, actuellement, tu t'en rends pas compte, mais t'es en train d'étouffer parce qu'on t'a enterré. En fait, là, il y a des années qui passent, mais en fait, ça se compte en secondes et t'as l'impression que les choses vont. T'as l'impression que les choses s'étendent sur une longue période de temps, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Du coup, il faut assez vite que tu sortes et pour te sortir, il faut recréer ça, t'enterrer, puis après pouvoir sortir. Et donc, du coup, en fait, durant ce moment-là, il fait la narration, mais en fait, on le voit être un peu faible, avoir des fois un peu du mal à respirer, mais quand même te dire « Mais je vais bien, en fait, là, j'ai une bonne vie, je me suis posé, c'est bien. »
C'est drôle, parce que je vais pas en parler plus, parce que le film est au cinéma en ce moment, mais c'est à peu près tout le lien fait dans le film Les Backrooms, qui aussi fait un film réalisé par un nouveau réalisateur, on va dire. Enfin, un réalisateur jeune. Vous savez qu'il a 20 ans.
Mais c'est un bébé.
Enfin, maintenant, il a 21, mais, donc ça marche plus. Mais,
c'est un bébé.
Mais c'est un bébé. Il y a un peu tout ça avec un des persos que j'aime beaucoup dans les backrooms, où c'est justement son refus de changer qui va le pousser à se sentir mieux. Je trouve ça assez drôle le parallèle qu'on peut faire avec ce film. Il y a un truc marrant aussi, c'est que le scénariste des films Musclor, donc Iman, a dit que sa plus grande aspiration c'était Asus TV Glow, et pas pour le côté trans, mais pour le côté être marqué par des œuvres de jeunesse et comment ça nous a marqué, nous, de nos jours. Et c'est pour ça qu'en tant qu'homosexuel, lui, ça l'a beaucoup marqué, He-Man, et que ça l'a poussé à vraiment faire ce film, voilà, tout ça. Et je trouve ça assez intéressant de comme quoi, nous, ça nous a marqué, parce que... Enfin, ça a marqué la commu trans, parce que c'est un film qui parle de transsexualité, de refus du choix, machin et tout. Mais comment ça peut marquer quelqu'un qui ne voit pas le truc? Par exemple, moi, je suis beaucoup les youtubeurs Red Letter Media, qui font un show qui s'appelle Alf in the Bag, et ils parlent du fait que pour eux, enfin, ils mentionnent vite fait le côté transcendanté. Enfin, l'un d'eux, le plus jeune, parle du fait que, ah oui, c'est pas aussi des gens qui sont mal dans leur peau. Mais que eux, par exemple, ils ont totalement une vision sur le fait que, bah, c'est quand tu es dans ta vie et que tu sais toujours pas ce que tu veux foutre à 40 ans, toi. Il y a un peu ça.
C'est ça qui est très drôle, c'est que quand tu vas creuser un peu tout ça, tu réalises qu'il y a beaucoup de questionnements identitaires sur est-ce que personne trans ou pas, qui vont aussi rejoindre plein d'autres questionnements, tu vois, parce que le fait aussi de pas réussir à vivre sa vie, bah c'est pas spécifique aux personnes trans, en fait, ça va être plein de personnes qui sont mal dans leur peau, qui savent pas exactement ce qui va pas et qui en fait vont trouver d'autres soucis qui sont pas spécialement liés au fait d'être trans. Moi, j'ai vécu ça, quand j'ai commencé à transitionner, j'ai encore vécu ça. Et en fait, bon, j'avoue que là, depuis que j'ai déménagé à Strasbourg, j'ai commencé un peu justement à sortir de cet état un peu...
Doxe-toi, vas-y.
Je me doxe. Je vis très exactement à...
L'avenue de la saucisse.
Bah, voilà. Depuis que j'ai déménagé, que j'ai rencontré d'autres personnes et que je me fais un nouveau cercle, que je suis entouré de personnes qui me correspondent plus à la personne que je suis maintenant, ça me fait quand même beaucoup de bien et j'ai beaucoup moins l'impression d'être dans ce truc de moins vivre et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent créer ces sentiments-là. Et dans Exo de TV Glow, c'est vrai qu'il y a, si tu peux voir ça aussi un peu plus largement, c'est comme dans Céleste, oui, ça parle de transidentité. Mais tu peux aussi relate, même si toi, t'es pas une personne trans.
Bah, alors pour moi, je t'avoue que parler de transidentité, pour moi, c'était plus vraiment, est-ce que la montagne, ça va la dépression, mais
Oui, bah, c'est plus que ça!
Oui, ok, d'accord, si tu veux. d'accord. Grosse pression, et il en a marre, sauve-moi s'il te plaît, Maddy.
Il appelle même sa maman, hein. À ce moment-là, genre, il se met à gueuler parce que il a encore une de ces crises où il se dit que il est pas censé être là ou quoi, et puis il commence même à appeler sa daronne, et tout le monde dans la pièce se fige, vraiment comme si tout le monde se mettait en pause en fait, et que lui était vraiment seul à hurler, et j'ai trouvé cette image horrible. Mais horrible! Et le mec, en fait, est tellement isolé dans ce truc. Ah, j'avoue que ça m'a vraiment rendu frappé.
Et aussi le make-up de vieux qui rend un peu tout uncanny.
Ouais, et puis sa peau morte sur les lèvres, là.
Contrairement à la déagification, où tu vois que le mec est vieux, mais il lui donne un truc jeune, donc c'est uncanny. Là, c'est l'inverse, ils ont grimé un jeune pour faire un vieux, et du coup, c'est uncanny aussi. Tu vois, je trouve ça assez drôle.
Ouais.
Le make-up qui est volontaire, toi, mais...
Ils avaient pas un énorme budget. Je pense que tout le budget est passé dans le monstre glace au début, parce que...
Et dans la location du Chuck E. Cheese pour faire 3 scènes.
Bien sûr.
Mais vraiment, il est tellement fatigué au bout de sa vie à ce moment-là, quand tu le vois vivre, replier sur lui-même, avoir du mal à respirer. Non mais, c'est ça en fait, c'est vraiment juste le mec qui vieillit beaucoup plus parce qu'il a plus d'oxygène.
C'était la blague dans... merde, le truc avec les vampires là, où c'est genre, j'étais transformé 18 ans. Ouais, à l'époque, être 18 ans, ça fait ça sur le corps. Alors que le mec, il a souvent qu'il a 40 ans, toi.
Putain, ça me dit un truc, mais je sais pas c'est où.
C'est toi avec tes vampires là.
Sois plus précis, s'il te plaît. What you do in the shadows, je sais plus.
Oui.
Voilà.
Bref, Owen fait sa crise, il s'ouvre le torse dans la salle de bain. Enfin, dans la salle de bain, dans les bathrooms. Dans les backrooms. Oh, what c'est trop sérieux. Et après, il revient comme, normalement, comme au taf. Voilà.
Alors.
Fin du film.
The end.
Générique.
Dans cette scène qui est dans la salle de bain, je trouve que c'est vraiment dans cette scène-là que... On va donner un petit moment de douceur, en fait. Tu vois, au début, justement, j'avais cité le moment où il disait qu'il osait pas regarder en lui parce qu'il avait peur de savoir ce qu'il allait y trouver. Là, à ce moment-là, il prend le cutter, il s'ouvre le torse, et quand il...
Un petit moment de douceur, on a dit. Hein. Il prend
oui,
le cutter,
j'ai
il
s'ouvre
non,
le
non,
cutter.
Non, mais... Putain, oui, bon...
Après avoir fait une crise d'angoisse.
C'est pas du tout sanglant comme scène. Il y a vraiment zéro sang. Il s'ouvre... Et en fait, parce qu'il y a une lumière qui sort de lui. Il sort une lumière, il y a vraiment une musique d'ambiante, super douce qui en sort lorsqu'il s'ouvre et qu'il y a cette espèce de lumière de télé, en fait, qui rappelle, bon, sûrement, en fait, sa nostalgie, ses souvenirs de The Pink Opec et plein de trucs qui sont un peu là, en fait, à dire que je trouve que c'est un peu une scène quand on revient sur la lecture de la transidentité qui revient là pour dire, ok, de temps a passé, oui, t'es au bout de ta vie, mais ça, c'est encore là. Et il est pas trop tard pour passer le pas, tu vois. Il est pas trop tard. Là, t'es au bout de ta vie, mais ça veut pas dire que t'es à la fin de ta vie non plus, quoi.
Après, techniquement, quand il sera mort, il sera enterré, hein, donc...
Bien sûr, mais c'est un peu le moment où je trouve que, justement, le film est pas non plus défaitiste. Il est pas non plus à te dire qu'il y a plus d'espoir, c'est trop tard, c'est fini, t'as passé le moment. Enfin, j'ai rencontré des personnes qui avaient 60 ans, qui ont commencé leur transition il y a genre 2 ans, et je trouve ça génial, enfin, il est jamais trop tard pour commencer une transition, justement. Et lui, il a un peu ce cas-là, je trouve. Ce qui est en fait compliqué, c'est que justement, on finit sur le travelling arrière de lui qui va s'excuser pour tout ce qui est arrivé avant. Et ça cut là, et c'est super sec en fait. C'est vraiment super sec parce que le mec...
C'est la fin de Soprano, quoi, c'est « Don't stop
!» Mais c'est, en fait, à ce moment-là, il n'y a rien de réglé pour le personnage. Et je pense que c'est ça en fait qui te pousse à te dire, bah, si tu te reconnais un peu en personnage, tu te dis, bah, voilà, en fait, c'est... Non, c'est pas trop tard.
Bah, et bon. Moi, j'ai du mal à me dire ça avec son comportement dans la dernière scène, c'est-à-dire qu'on n'a pas de différence de comportement entre avant et après qu'il s'ouvre le bide par rapport
oui,
aux
moi
autres.
Oui, moi, je suis comme moi.
C'est pour ça que c'est pas clair, tu vois.
Bah... Pour moi, il reprend le travail comme si rien n'était. Il va avoir sa crise dans 20 ans après, voilà, tu vois,
en fait, toi, c'est ça, le truc, c'est que tu peux pas... Je trouve que le fait que ça revienne normalement, c'est un peu pour dire qu'il reprend la mauvaise décision, et je pense que c'est aussi une manière de vouloir pousser son auditoire à, elle, prendre la bonne décision pour elle-même, tu vois. C'est un peu comme quand t'as des pubs pour des jeux du téléphone, là. Des jeux de téléphone, j'ai 55 ans.
C'est-à-dire que t'as un âge de moche ou quoi, là, c'est quoi ça?
Et voilà. Tu sais, à chaque fois, en ces pubs, la personne va toujours jouer comme une merde pour te donner envie de DL le jeu et de toi jouer bien, tu vois. Bah moi, le film me donnait un peu ce sentiment-là où ça finit de manière assez frustrante pour te donner, toi, envie de pas faire la même erreur et de prendre les décisions qui te semblent meilleures, en fait.
Et bah pour la peine, je détransitionne. Et paf, voilà, dans ta gueule.
Non.
Pour revenir sur le truc des pubs, on apprendra que le père, en fait, est pas joué par Fred Dust, mais par Franck Leboeuf, bien sûr.
Franck le Dust.
Franck le Dust.
Franck le Dust.
Vendez votre groupe de merde.
Oh putain, l'horreur.
Oh putain, Pixel va apparaître chez moi, elle me casser la nuque là pour avoir dit que Nimbiscuit c'est un groupe de merde, ce qu'ils sont. Ils sont juste sauvés par leur guitariste Pixel, il faut apprendre maintenant à vivre après, hein.
Ah bah écoute, quand on invitera Pixel, il faudra que le générique ce soit en mode Nimbiscuit.
Oh là là. Oui bah. Bah, bonne chance, moche, hein. C'est toi qui fais la musique chez nous, hein.
Ah, ça doit pas être si dur que ça.
Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 aïe.
C'était I Saw the TV Glow. Avant de passer au recours, est-ce que vous avez un mot à rajouter, Sybille?
Moi, plein, moi, donc allez-y.
Allez, vas-y, moche, vas-y. Je sais qu'on va rebondir sur ce que tu veux dire.
Ah, bah oui, sans doute.
Ok. Alors, je vais commencer par moi, alors.
Vas-y.
Quoi, ça va être rare. J'ai rien à rajouter, voilà.
Ah, c'est parfait. Déjà, moi, je voulais dire qu'on avait vu le film d'avant avec Sybille.
Oui.
J'ai oublié le nom, mais tu vas me
dire. We are all going to the World's Fair.
Et je pense que j'ai pas trouvé I Saw the TV Glow lent, parce que l'autre était encore plus lent dans ma tête.
Ah. Alors, oui, bah...
J'étais habitué, en fait. Mais c'est vrai que c'est des films où t'as intérêt à t'accrocher, il se passe pas... C'est pas l'action, quoi. C'est fou.
Mais le truc, c'est que c'est vraiment porté par son ambiance et l'aspect assez contemplatif. Alors, je trouve que I Saw the TV Glow, il passe mieux que We're All Going to the World's Fair, parce que, pour le coup, bah, il se passe quand même pas mal de choses.
Ah bon?
Mais genre, We're All Going to the World's Fair, c'est vraiment très film ambiante. Genre, littéralement, il y a une scène où la meuf, elle se pose dans un canapé, elle regarde une vidéo d'ASMR et on nous montre la vidéo d'ASMR pendant bien 3-4 minutes. Et moi, j'étais en mode full kiff, parce que j'adore ça. Mais moi, j'ai envie de crever à côté.
Oui.
Je sens que je vais ajouter le nom d'une réale au réal que je n'aime pas du tout.
On verra avec le troisième, vu que c'est censé être une trilogie. Je voulais rajouter deux autres choses. Je voulais rajouter un truc, c'est que moi, au début, quand on a vu... Enfin, quand j'ai vu I Saw the TV Glow, mais aussi au début, quand j'ai vu le titre, Sybille.
We are all going to the World Fair?
Exactement.
Ok, d'accord.
J'ai eu peur d'un truc, c'est que j'ai eu peur que ce soit... Le setup des films, le contexte des films, fait très film teenage angst ou coming of age, donc passage à l'âge adulte et trucs comme ça. Et c'est des genres que je déteste.
Mm-hmm.
Et moi, personnellement, ça me parle pas du tout comme type d'histoire. Teenage angst, parce que t'as un côté romantisation de la misère... Où je pense que les seules personnes qui feraient le choix de faire ces œuvres à suresthétiser le truc, soit c'est qu'ils ne sont jamais rentrés dans cette situation, soit qu'ils s'en sont jamais sortis. Mais dans les deux cas, j'ai pas envie d'entendre votre avis dessus. Tu vois. Et problème des histoires de coming of age, c'est que, en tout cas, toutes celles que j'ai vues jusqu'à présent, c'est toujours des histoires où passage à l'âge adulte, en fait, ça veut dire transformation en membre fonctionnel de la société. Et le problème, c'est que c'est des histoires où, bah, du coup, le discours, c'est un peu...
Ouais, sors-toi les doigts du cul, là.
Voilà, la merde que tu vis quand t'étais adolescente, en fait, c'est pas de la vraie merde, et après, ça va bien aller. Alors qu'en vrai, il y a plein de choses que tu vas vivre à l'adolescence qui sont le fait d'un truc... qui va pas miraculeusement disparaître quand t'auras 18 ans, ou miraculeusement disparaître quand tu vas avoir un cerveau développé, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Typiquement, dans le cas qui nous intéresse, la transidentité, Bah ça, c'est-à-dire que ton inadéquation avec la société, avec le monde qui t'entoure, va pas changer miraculeusement parce que tu vas devenir à l'âge adulte. Et ça pourrait être pareil avec énormément de choses. Tu peux parler de neuroatypisme et conneries comme ça. Mais enfin, si t'es marginal en étant adolescent, tu peux très bien rester marginal en étant adulte sans que ce soit toi qui reste immature, en fait. C'est-à-dire que tous les problèmes que tu as ne viennent pas d'immaturité. Et le fait de le présenter sous cette forme, c'est vachement insultant, en fait. C'est je regarde sur cette époque avec sourire et amusement parce que vraiment c'était pas si grave. Alors que en vrai, si. Je trouve que ces histoires ont toujours un vieux relent de je m'en fous, en fait. Tu vois, de pas les traiter avec le sérieux de ces situations. Et sinon, je voulais dire un dernier truc. Si on fait le diagramme de Venn entre les gens qui écoutent ce podcast et les gens à qui le message que je vais dire, ça les concerne, je pense qu'il y a genre 2 pixels. Tu vois, ça concerne vraiment très peu de gens, mais...
Ah, j'ai voulu parler de pixels encore chez Bayon.
Non, mais vraiment... Oui, non, mais là, pour le coup, en plus, je pense pas que ça la concerne elle du tout. Mais je pense qu'on n'aura pas d'autres épisodes où ce sera aussi pertinent de le dire, donc je vais le dire. Si vous êtes une personne probablement transgenre ou militante et que quand une personne en recherche de traitement hormonal ou en recherche de transitionnement, si votre go-to en réponse, c'est de lui dire « essaye de trouver un médecin traitant », j'aimerais que vous reconsidériez votre réponse et que vous preniez un petit peu de recul sur ce que ça implique, sous-entend pour la personne à qui vous le dites, en fait. Oui, il y a des gens qui vont avoir du bol et tomber rapidement sur un médecin traitant qui va les prendre en charge pour le traitement hormonal. Oui, j'imagine que quand vous êtes dans des villes et des trucs comme ça, c'est facile de trouver des adresses comme ça de différents médecins traitants, ou alors d'avoir suffisamment de connexions pour qu'on vous aiguille vers quelqu'un. Mais si votre réponse, c'est vraiment juste « essayez de trouver un médecin traitant », ça veut dire que pour la plupart des gens, vous leur rajoutez une charge mentale énorme, en fait. Vous leur demandez de faire des listes de médecins traitants, de faire l'entretien avec les médecins traitants et de se faire refuser en boucle.
Oui, parce que souvent, ils ne savent pas. Hein. Même le mien que j'ai, il est cool et tout, mais à chaque fois, il est en mode « Attendez, il faut que je me renseigne, machin, sur une base de données, parce que... »
Tous les médecins traitants sont pas capables de...
Mais les médecins traitants, les plupart des gens, « Je n'ai pas appris ça, ce n'est pas à moi de m'en occuper, au revoir. » C'est-à-dire qu'il y a...
Oui.
C'est même pas « Je ne sais pas, je vais me renseigner », c'est « Je ne sais pas, aller voir ailleurs. »
Et des fois même, c'est pire, parce que moi, je sais que j'avais rencontré une endocrinologue qui me disait genre « Ah non, mais vous savez, les hormones vaut mieux éviter, ou alors prenez genre très très peu, parce que ça peut être très dangereux et tout comme ça et tout. » Et ça m'avait un peu matrixé la tronche. Mm-hmm. Et après, j'ai vu une gynéco qui, elle, était un peu plus cool, c'était la gynéco de mon mec à l'époque. Et elle était en mode « Bah, non, en fait, tu peux faire pas ce que tu veux non plus, mais genre, techniquement, en fait, il n'y a pas de vrai truc à part. » Il y a plein de trucs comme ça, où, en fait, il y a des gens qui sont juste, enfin, pas méchants, ça veut rien dire méchant, mais genre, juste... Non mais les trans c'est un truc de, c'est une connerie, vous vous occupez pas de ça, c'est, vous êtes juste voilà, y a rien, cassez-vous. Donc je suis en mode bon, si je devais passer par le cursus vraiment genre légitime, mais la transition, ça y est, je serais encore au patch de merde qui me donne que dalle en termes d'hormones et genre y aurait rien eu, tu vois.
Oui. Alors non, si t'étais passé par les trucs légitimes, tu serais encore aux entretiens psychologiques où on te demande de venir avec les membres de ta famille une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour savoir comment tu vis le truc. Et t'aurais pas encore tes hormones, meuf. Mais oui.
L'internement à Bedlam ou Arkham Asylum.
Ça, c'est un truc de zinzin parce que du coup, il me semble qu'il y a. Enfin, justement, il n'y a plus d'obligation pour l'endocrino de te dire qu'il faut un papier d'un psychiatre pour te dire que c'est ok de commencer la transition. Mais il y en a quand même qui vont être en. Je me souviens qu'il y en avait un seul à Angers qu'on pouvait voir pour ça. Et lui, il demandait systématiquement ça, sinon il te suivait pas. Donc du coup, il te laissait pas le choix. Alors heureusement, moi, j'avais une médecin traitante qui. Était un peu habilité, mais il s'avère qu'après, en arrivant ici, il y a quand même des personnes trans qui m'ont dit alors ton traitement, tu le prends pas du tout comme il faut. Et bon, eh ben, au moins, le fait démarrer le traitement, mais après, sur la manière de prendre, il y avait des petits couacs.
Il y a beaucoup de... On ne sait pas, en fait, parce que les femmes... Par exemple, moi, je sais que nous, bah, les médicaments qu'on nous donne, c'est des médicaments contre la ménopause. Voilà. Il y a plein d'effets secondaires qu'on n'est pas catégorisé dedans, parce que bah, ils ont pas fait de test dans les trucs sur nous, en fait. Et techniquement, il y a tous les produits qu'on nous donne... sont pas pour nous, en fait.
Ouais.
on prend des médicaments qui sont pas liés à nous. Si on prend pas les hormones en littéralement en intramusculaire comme moi ou intra, je sais plus comment dire, mais dans la peau plus que cutanée, ouais. Bah techniquement limite, j'ai pas envie de dire que tout, rien ne sert, mais on est sur un truc de, tu sais, on doit servir chez les autres parce que nous on n'a pas de médicaments à nous en fait. On n'a pas de pilule qui tiens voici 100 mg de stro, bonne chance toi. Y a pas de ça chez nous toi.
Ouais, donc.
Et à chaque fois, il y a un peu un truc, je sais, parce que c'est un autre médecin, bah, c'est l'endocrino que je détestais, elle m'avait dit, genre, mais faut pas écouter ce que dit sur internet, machin, tout ça. Oui, mais nous, on n'a pas de test.
Moi, je suis futur, alors je vais vous lire un document qui s'appelle Hormones et parcours trans de l'association Out Trans, spécifiquement un passage sur l'autorisation de mise sur le marché. Pour être commercialisé en France, tout médicament doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, entre parenthèses AMM. À l'échelle nationale, l'AMM est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce sont les laboratoires qui procèdent au développement d'un produit qui constituent le dossier de demande d'AMM pour la commercialisation de ce produit à des fins thérapeutiques données. Les personnes trans ne représentant pas, aux yeux des labos, un marché suffisamment important, l'ensemble des produits prescrits dans le cadre d'un traitement hormonal à des personnes trans le sont, entre guillemets, hors AMM. Une prescription en non-conformité avec les conditions du produit telles que mentionnées dans l'AMM ne se limite pas aux enjeux trans. Ainsi, beaucoup de prescriptions de médicaments en pédiatrie se font hors AMM.
Genre, on m'a dit, ah, faut prendre la projet, machin et tout, mais parce que les autres femmes maf trans prennent la projet, mais sinon, c'est tout, toi, genre, on ne sait rien, toi.
Oui, la progestérone, en soi, c'est pas nécessaire. Mais aussi, il y a un truc, moi, que j'ai appris, c'est que nous, si on passe par les circuits légaux, ce qu'on a accès, c'est le patch, le gel et la version pilule. Moi, je suis parti sur la version pilule, mais en fait, la version pilule, elle a quand même des assez gros risques au niveau du foie. C'est pour ça qu'il faut faire des prises de sang assez régulières pour surveiller ça. Mais globalement, le meilleur moyen de s'injecter des estrogènes, ce serait via des injections, en fait.
Oui, c'est illégal en France.
Sauf que c'est des moyens qui sont dans une zone grise où en fait c'est pas illégal de te les injecter, mais c'est illégal de te les vendre.
Oui, donc, illégal de nous les vendre aux femmes trans. Je crois que les hommes trans, eux, peuvent s'injecter de testo.
Pour nous, c'est illégal.
Ça, je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, on sait tous, être une femme trans, c'est souffrir.
Bah, c'est des. Non, mais c'est parce que c'est des. En gros, toi, une fois que tu l'as, c'est pas illégal de l'avoir, mais c'est pas un produit qui est commercialisé en France, si tu veux. C'est.
Et faut pas que tu parles de où tu l'es procuré à n'importe qui parce que ça pourrait les foutre dans la merde.
Oui, donc oui, mais bon, on est déjà dans la merde de base, donc bref.
C'est ça.
Enfin bref, tout ça pour dire, si vous êtes une personne qui balançait à tout bout de champ, essaye de trouver un médecin traitant.
De bonne foi, hein, bien sûr.
Reconsidérez cette phrase, parce que vraiment, juste aller régulièrement chez des médecins, défendre son morceau pour au final se faire refuser en boucle, il y a de quoi faire un burn-out à la personne et que la personne, même des années plus tard, quand elle a besoin de reprendre un rendez-vous pour essayer de retrouver des hormones, elle n'endorme plus la nuit pendant des semaines. Et je parle d'expérience. Ça fait 10 putains d'années et j'ai toujours cette vieille boule au ventre de merde, en fait. Donc, ce conseil à la con, vraiment, autre chose, par pitié.
Oui. Mettez-le avec tu peux être une femme avec de la barbe, hein, c'est, voilà, vous le jetez avec l'eau du bain, s'il vous plaît, et grand-mère.
Et grand-mère, allez hop là, tout le monde y passe.
C'est tout, c'est tout moche.
C'est déjà pas mal.
Sybille.
Moi, en ce qui me concerne, j'ai rien de plus à rajouter.
Ok. Eh ben, on va passer au reco. Sybille, c'était ton film, donc c'est quoi ta reco?
Alors, ma reco, en fait, faut savoir que comment j'ai découvert le film.
Par terre.
Durant la scène du concert. Une des chanteuses qu'on entend, qui est du coup celle qu'on entend, qui est la deuxième qu'on entend, c'est Christina Esfandiari, qui est la chanteuse du groupe King Woman.
Ah,
et la chanson qu'elle fait, c'est Psychic Wound, qui est une chanson sur l'album Celestial Blues. Et c'est cet album-là que je vais vous recommander, parce que du coup, moi, j'ai entendu parler du film grâce à elle sur Insta, qui a partagé des trucs. Et moi, j'étais là, oh tiens, elle y a une de ses musiques dans le film, bon, bah, je vais peut-être le regarder. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à le regarder. Donc, moi, j'ai envie de vous conseiller son album Celestial Blues, sorti en 2021. Alors, quel type d'album c'est? Quel type de musique c'est, vous allez me demander? Eh ben, c'est, en tout cas sur Wikipédia, c'est décrit comme du doom metal, du grunge, du post-rock. J'ai fait écouter un morceau à une personne il y a quelques années qui m'avait décrit ça comme du metal de garage. Je trouve que c'est assez accurate. C'est un album qui est un peu sur tous les thèmes qui sont un peu sur la chute de Lucifer globalement, donc on est sur plein de thèmes un peu comme ça, les relations toxiques, plein de trucs dans ce goût-là. C'est un album que j'aime beaucoup, j'adore les musiques, et il y a pas mal de morceaux qui m'ont en fait beaucoup marqué. En fait, j'avoue que dans la playlist, il y a littéralement tout l'album. Mais dans mes petits chouchous, Morningstar, c'est une des musiques les plus connues, qui est le plus, dont on parle le plus de l'album, et je trouve que c'est quand même vachement légitime, parce que la musique est vraiment super bien. Coil, je trouve que c'est vraiment la musique courte, mais intense, tu vois un peu le bail, et Entwined, c'est ma préférée, parce que c'est celle qui est un peu sur un mood en build-up. Du coup, moi, forcément, c'est un truc que j'aime bien, c'est le gros morceau de 6 minutes qui commence doux, puis après, à la fin, ça balance tout, donc moi, je...
Mais c'est que Gira ou quoi, ta album?
Sur la voix, bon, tu l'as un peu vu dans le film, on n'est pas sur les mêmes choses. On n'est pas sur les mêmes choses.
Sûr, je plaisante.
C'est Gojira post-transition.
Gojira post-transition.
Bravo, elle, bien sûr.
Et puis, bon, Christina Sfandieri, elle a quand même un style assez, assez sympathique aussi. Assez sympathique.
Oui,
moi, j'aime
une voix envoûtante.
Elle a une voix particulière, elle a vraiment une voix très reconnaissable. J'avoue que je suis assez fan. Je suis assez fan de ça.
Tu peux répéter l'album
Celestial Blues de King Woman.
Let's go. On va passer à Marocco. Moi, Marocco, je vais parler d'une série d'horreur que tout le monde a regardé en ce moment, sauf Sibyl.
Wow.
Je vais parler de Widow's Bed.
Ah oui, en effet.
C'est une série qui est diffusée sur Apple TV. Et alors, je réalise que Apple TV, comme, à part faire des bangers, je sais pas ce qu'ils font, parce qu'ils ont fait Severance, ils ont fait Pluribus, ils ont fait Studio avec Seth Rogen. Enfin, il y a... Et pour l'instant, ils font que des choses, et pour l'instant, c'est que du bon truc, là. Je suis un peu surprise.
On disait pas de Netflix à l'époque.
Bah ouais, en vrai, hein. Sauf que Stranger Things, j'ai toujours trouvé ça gaze, mais c'est parce que je déteste la nostalgie, là. On a fait un épisode, il y a très longtemps, je dis ça comme s'il y avait 10 ans, le podcast, sur Midnight Mass.
Oui.
Donc vous prenez Midnight Mass, en termes d'horreur, et vous rajoutez un peu d'humour. Et c'est Widow's Bay.
Ok.
Le prémisse, c'est qu'en fait, on est sur... une île qui s'appelle donc Widow's Bay, donc la baie de la veuve, où on suit un nouveau maire qui essaie à tout prix de moderniser l'île, par exemple avoir de la wifi par exemple, ce qui est pas mal, et en fait il va tomber épisode après épisode sur les rumeurs et autres histoires de fantômes de l'île en fait, et c'est extrêmement drôle, il y a plein de trucs mais qui me font très très rire premier degré, et en même temps c'est une série qui est comédique horreur mais qui n'oublie pas d'être horrifique toi. Et souvent, en fait, la comédie horreur, c'est un truc qui est proche de Evil Dead 2 ou Evil Dead 3, en mode, ah, il y a beaucoup de sang et des gags potaches. J'ai rien contre, hein, bien sûr. Mais juste que là, en fait, on est de la comédie horreur où les situations sont drôles. Parce qu'en fait, le mec, il réagit vraiment, comment on réagit, enfin, je réagirais en tout cas, vraiment dumbfounded à chaque fois qu'il voit un truc bizarre, en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre, exemple, il y a un épisode où il doit dormir dans un hôtel et sa télé, elle passe que les mêmes trucs en boucle. Et il dit genre, mais vraiment une télé de merde, parce que c'est un truc de pourrave, toi. Et il y a même temps, ils mettent des trucs horrifiques, et ça marche extrêmement bien. Vraiment, j'étais vraiment happé dessus. Donc voilà, je vous conseille cette série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Widow's Bay, créée par Katie DiPold et réalisée par, si je vois bien, c'est Hiro Murray. C'est des épisodes de 30-40 minutes environ, et il y a une dizaine d'épisodes. C'est vraiment... Il n'y a pas un côté Monster of the Week non plus, mais il y a un côté Conte de la Crypte. Que je trouve ça pas mal, voilà. Parce que chaque épisode apprend une nouvelle légende à la con sur l'île.
Ouh.
Et comment ils vont faire face là-dessus, et c'est... Voilà.
Ouh, donc, ouais, tu m'as donné envie, là.
Vraiment, te connaissant, surtout que te connaissant et que t'aimais bien Midnight Mass, je pense que tu as beaucoup aimé...
Widow's Bay.
Widow's Bay.
Ok, ok.
Moche. C'est quoi ta reco?
Ah, ma reco, on a déjà cité sur d'anciens épisodes, mais...
Critical Role.
pour me venger, je devrais proposer du Critical Role, ça. Non, mais parce que voilà, du coup, dans le film, on a un moment, pendant qu'il est vieux, où il revoit la série... Et c'est devenu un show pour gosses vraiment qui trouvent ridicule et tout ça.
Mm-hmm.
Et ça m'a fait penser à une chaîne YouTube qui ne fait pas cette erreur. Une chaîne YouTube en français pour changer. Qui s'appelle tout simplement ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne.
Oh !
Et oui, parce que ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, c'est une chaîne YouTube où deux personnes vont faire la review, on va dire ça comme ça, il y a aussi des épisodes spéciaux, mais c'est souvent des épisodes comme ça, d'une série de dessins animés de plus... Bah, il y a des trucs un peu plus récents, mais ça va taper quand même plutôt dans les trucs jeunesse.
C'est le maximum, souvent. Ouais.
Mais du coup, ça ne fait pas l'erreur de considérer que parce que c'est des trucs pour un public plus jeune, que ça ne vaut pas le coup d'être traité avec sérieux et en prenant du recul et en analysant ce qui est dit à l'intérieur, pourquoi c'est dit, comment c'est dit, et de vraiment respecter le travail qui est fait en le jugeant de façon sérieuse. Sérieuse, oui, sérieuse. Avec un D à la fin, bien sûr. Sérieuse et approfondie. Et du coup, je trouvais que c'était bien comme...
Un épisode en particulier ?
Ah, il y en a plein qui sont sympathiques.
Moi, j'aime beaucoup leur épisode sur Yu-Gi-Oh! Je trouve que souvent, ils mettent bien en fait en valeur le fait que les shows japonais ne sont pas faits comme les shows français. Et du coup, il y a des erreurs, mais aussi des choses qu'elles aiment, qui sont dedans, qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Et je trouve ça assez cool. Et aussi, c'est n'en déplaise moche, mais ce sont des fans de VF.
Oui,
comment
mais...
ça, tu changes d'orco, moche.
Ce que je reproche à la VF, c'est justement que tout sonne comme des doublages de dessins animés. Donc, ils aiment bien les doublages de dessins animés. Ça ne me choque guère, en fait. Enfin...
Pour moi, si vous devez commencer par un épisode, souvent je suis sur Yu-Gi-Oh! Est un bon truc parce qu'il y a vraiment leur humour. On est quand même sur les trucs... C'est des youtubeurs vieux de la vieille. Hein. Ça fait quoi, 10 ans maintenant qu'ils sont sur YouTube, toi. C'est genre vraiment... Voilà. Donc il y a toujours un peu une vieille vibe, mais que ça marche encore, toi. Ça... Je sais pas si des fois vous matez des vieux Nostalgia Critique ou Spoonie ou quoi. Moi, des fois, non. Je le fais, parce que je trouve ça assez cool, parce que j'ai grandi avec ça, toi. Mais c'est vraiment genre... C'est le même de quand le critique cinéma commence à parler à son double maléfique, toi, et t'es en mode... Mad Men, putain, cinéma, toi.
Ouais, c'est quand même pas trop la vibe du truc.
Mais voilà.
Mais moi, ce que j'aime bien avec cette... Non, mais par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui m'enthousiasme par rapport à cette chaîne YouTube, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de ce genre de chaîne YouTube, et YouTube essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus que des énormes chaînes à plusieurs millions de vues. Et c'est con, parce que ce genre de chaîne, avec du contenu un peu niche, mais super intéressante, avec des gens sérieux qui font le taf et tout...
Bonne take.
Bah, c'est trop cool.
Je suis pas d'accord avec tout, mais oui.
Moi, je t'avoue, j'ai envie de mater les épisodes de mes dessins animés de mon enfance, genre sur Ben 10, sur Galactic Football, sur Pokémon.
Alors, Ben 10,
je t'avoue, alors, là, moi, je vois ça, je suis là, waouh. Non, mais alors, justement, moi, je m'attends à ce que des fois, il y ait des trucs aussi où je descends le de ouf, sur ah putain, il y avait ça, c'est vrai, ouf, ou dur.
Alors, par chance, j'ai jamais aimé Ben 10, et par chance, il n'aime pas Ben 10 non plus. Mais je sais qu'il s'est pris un peu une volée de bois vert parce que vraiment. Après, ce qui est bien, c'est pas juste de la hate pour hate, c'est vraiment genre... C'est bien monté, parce que ça se voit que c'est des gens qui ont fait des longues études. Donc il y a toujours un côté thèse, antithèse, thèse, toi, et avec des arguments. Toi, c'est pas juste, c'est de la merde, toi.
Thèse, antithèse, thèse, ouais.
Même quand je suis pas d'accord avec eux, il y a un côté, mais c'est quand même bien amené,
bah,
je peux voir pourquoi ils aiment
quoi,
pas.
C'est, oui.
Voilà, argumenter, c'est ce
que je cherchais. Et c'est grâce à cette chaîne YouTube que je connais CyberSix, bien sûr, voilà.
Ah oui,
incroyable,
que tu me réclames.
Ne lisez pas le comics argentin, parce que bah, c'est argentin. Et,
Bah, non, mais c'est bien, mais c'est pas pareil.
Et on va passer à...
Non.
Parce que on va, dans deux semaines, faire... Bah, vous voyez, quand à la fin du film, ils font un suicide collectif. Et bah alors...
On va
un épisode spécial avec nos amis... Nos camarades, nos... camarades, mais pour employer...
Comparses.
Nos collègues. Nos collègues de chez Carton C qui sont... J'allais dire nos fiers bambins, je sais pas pourquoi, mais...
pas trop, là.
Je manque un adjectif, mais... Bref, nos camarades de... C'était mieux dans le livre, point d'interrogation. On avait fait un caméo avec eux. Enfin, un spin-off, plutôt.
Oui, sur
avec
Fight Club.
Sur le film Fight Club, qu'on vous encourage à écouter, plus leurs autres épisodes. Ils ont fait un super épisode sur One Piece que j'aime vraiment beaucoup, même s'ils utilisent le terme comme Pimpo et Sandy, et je trouve ça bon. voilà, le délire de woke, mais... Et on va les inviter pour faire un épisode avec nous sur Ready Player One.
Ouais.
Le film et le livre.
Truc de craignos, on est dedans, parce que là, avec moi, ça fait un moment qu'on est en train de lire le bouquin, on a lu plus de la moitié, on meurt à l'intérieur, hein, c'est dur.
C'est terrible.
Et moi, je vais commencer le livre. Donc, on se dit dans deux semaines pour un crossover entre Queen et Club et C'était mieux dans le livre, sur le film et le livre Ready Player One. On vous dit à dans deux semaines. Bye.
À dans deux semaines, en espérant que ce soit pas pour la dernière fois.
Oh, on va s'enterrer, hein. après, Ready Player One, c'est l'antithèse de Society Viglo, quoi.
c'est
on
clair.
En parlera, monsieur.
Et des bisous.
une autre. Embrouille sur ton comportement. Et moi, te laisser démerder. Parce que j'en ai rien à chier. Et je suis vénère. Ouais! Cette fois, ça va sortir d'un coup. Cette fois, je vais gueuler. Fais les choses sur ma route. C'est ma route. Ma route de l'autoroute. Cette fois, ça va sortir d'un coup. Cette fois, je vais gueuler. Fais les choses sur ma route. C'est ma route. Ma route de l'autoroute.